Bonjour, bienvenue dans le podcast de Perdusa. On est de retour pendant la pause estivale des séries TV pour vous parler de ce qu'on a vu et vous en dire beaucoup de mal, forcément. Et du bien aussi.
Il a été présenté.
Voilà, on est aujourd'hui avec moi-même, Iris, GG.
Bonjour.
Et Tigrou.
Bonjour.
Évidemment, je commence par moi parce que je suis la fille et la personne la plus importante présente ici ce soir.
Sachant qu'il faut préciser que la chanson du nouveau générique s'appelle « En l'honneur d'Iris » et de son nouveau féminisme.
The devil is a woman.
Voilà.
Et c'est pas faux.
Eh bien, commençons tout de suite. On va évoquer en gros les séries qu'on a vues en commun, à commencer par la seule bonne chose de cet été.
Orange.
À peu de choses près.
Oui,
si on accepte les séries que tu n'aimes pas parce que tu n'as aucun
goût. The Newsroom et Wilfred, quoi.
Voilà,
mais sinon, il y a fait d'autres choses bien cet été, comme Orange.
Is the New Black.
Présente-nous rapidement la série, Iris, raconte.
Ouh là là, non, je suis très mauvaise pour les synopsis, fais-le plutôt toi.
Alors,
tu vois, quand tu prends quelqu'un de court, ça fait mal.
Orange is the New Black, c'est une série sur une fille qui va en prison, en fait, hein, tout simplement. Une fille qui vient d'un milieu relativement aisé, assez bobo même, et qui, à cause d'une erreur de jeunesse avec une lesbienne, il faut le préciser, où elle a fait passer de l'argent lié à du trafic de drogue en France, ou je ne sais pas quoi, se retrouve à devoir faire un an de prison dans une. Et finalement, ce personnage, ça nous permet de rentrer dans l'univers de la prison et de découvrir. L'ensemble des détenus qui sont pour la plupart aussi, voire plus intéressants que l'héroïne principale.
Beaucoup plus intéressants même.
Et c'est très bien. C'est une série de la fille qui a... de Jenji Kohan.
Qui a fait Weeds.
Voilà, qui a fait Weeds. C'est marrant parce que beaucoup de gens disaient que ça n'avait rien en commun avec Weeds. Et moi, je retrouve quand même... peut-être pas, enfin, il y a un peu le côté décalé de Weeds qu'on retrouve par moments dans la série, mais surtout, je trouve que dans Weeds, on sentait qu'elle avait toujours plaisir à donner la parole à énormément de personnages qui ont des manières de parler très différentes. Tu sentais qu'elle était toujours contente quand elle pouvait ajouter les trafiquants mexicains, les trafiquants blacks, les trafiquants arméniens dans sa série. Et effectivement, dans Orange is the New Black, un des vrais plaisirs, c'est quand même les dialogues qui sont ciselés et avec chaque personnage qui a vraiment sa façon de parler. Et c'est.
Oui, parce qu'il y a vraiment une grande galerie de personnages. C'est donc dans une prison pour femmes, pas besoin de le préciser, mais je le précise quand même. Et du coup, les épisodes, on a à peu près dans chaque épisode un nouveau personnage sur lequel on se penche un peu. Et on voit toujours différentes facettes de différents personnages. Et on peut, petit à petit, on découvre leur passé au travers de flashbacks. Et des flashbacks pas toujours utiles, selon toi, c'est ça ?
Oui, ce sera ma réserve sur la série, mais je vais peut-être d'abord en dire du bien. Effectivement, je trouve que les flashbacks, ça fait un peu, c'est pas mauvais, mais c'est presque en trop en fait pour moi dans la série. Ces flashbacks, je trouve que la série fonctionne super bien dans l'univers carcéral et que tout ce qui nous fait sortir de l'univers carcéral, que ce soit la relation de l'héroïne avec son fiancé ou les flashbacks, parfois c'est intéressant, mais souvent c'est un peu ça fait partie pour moi des moments un peu plus faibles de la série. Notamment son histoire avec son fiancé, où il y a des moments où j'avais un peu l'impression justement de me retrouver dans les excès de Weeds, où son fiancé se met à écrire un article sur la masturbation, et ça occupe 3 épisodes, où il nous raconte son article, et où honnêtement, il y a des choses plus intéressantes dans la série sur lesquelles se focaliser.
Je sais pas, moi, sur les flashbacks, je suis peut-être un peu d'accord, puisque, même si souvent... c'est bien, je commence bien. Sur les flashbacks, c'est pas Lost non plus, hein, c'est-à-dire que c'est quand même en général très très court, c'est pour nous donner une ou deux informations. On sait jamais vraiment pourquoi elles sont en prison, en fait. Ça nous permet aussi de les voir, pas seulement dans leur costume de prisonnière, mais de les... pas humaniser, parce qu'elles sont en prison qu'elles sont plus humaines, mais de les voir dans leur vie, dans leur vie d'avant, je trouve ça pas mal.
Ça permet d'avoir des personnages, parce que quand elles sont en prison, elles sont toutes assez affirmées, on va dire. Ça permet d'avoir des personnages peut-être un petit peu plus vulnérables, d'une certaine façon, qui ont plus de failles, qui ont pas besoin de présenter cet aspect un peu de rock, on va dire, et d'avoir vraiment des personnages plus humains. Moi, c'est ça, j'ai vraiment vu comme ça, les flashbacks, c'est quelque chose qui permet d'approfondir le côté humain des personnages et leur humanité avec des proches avec lesquels ils ne sont pas dans un jeu de pouvoir. Parce que la prison, vraiment, quand ils sont en prison, c'est vraiment un espèce de jeu de pouvoir
pour c'est essayer ça, de chacun faire... doit tenir chacun son rôle pour survivre. Et c'est plutôt intéressant de voir justement ce que la prison a fait d'elle, ou en tout cas quel rôle elle joue en prison par rapport à ce qu'elles étaient auparavant.
Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des flashbacks, par exemple le flashback sur la femme transsexuelle Sophia, c'est assez intéressant parce que ça enrichit le personnage. Il y en a le flashback sur la toxicomane où on découvre effectivement qu'elle vivait dans la rue. Il y a des fois, ça donne aussi aux actrices un peu l'occasion de briller. Et il y a des moments, il y a certains flashbacks où je me disais, bon, bah évidemment, il fallait montrer un autre aspect du personnage. Et je dis pas que c'était pas intéressant, mais je trouvais pas ça passionnant non plus. Et surtout, il y a le côté un peu... moi, ce qui me fait penser à Lost, c'est quand le flashback vient vraiment expliquer la réaction d'un personnage dans l'épisode. Ouais. Et par exemple, la cuisinière russe, qui est assez géniale en tant que personnage dans la prison, les flashbacks sur elle qui nous expliquent qu'il y avait des filles qui étaient méchantes avec elle, des filles plus riches qui étaient méchantes avec elle. Donc, du coup, elle est pas contente que l'héroïne qui est plus riche ait été méchante avec elle. C'est... Je trouve pas ça indispensable, en fait.
Ce qui est intéressant avec la cuisinière, c'était de voir son espèce de relation avec son mari, je trouve. Je trouve que sa relation avec son mari, c'était intéressant de voir cette femme qui, tout le temps, occupait un espèce de rôle secondaire de servante, plus ou moins, de son mari, qui était vraiment au service de son mari, et qui, par sa capacité à réfléchir, sa capacité à trouver des solutions un peu en dehors des sentiers battus, a réussi à prendre le dessus sur son mari et à devenir... bon, bien sûr, c'est ce qu'il finir en prison, mais qu'elle a vraiment réussi à prendre le pouvoir et prendre le dessus, à s'affirmer en tant que personne, plutôt qu'en tant que simplement une femme qui doit servir son mari.
Mais je suis d'accord, hein, mais là encore, je dis pas que les flashbacks sont tous ratés ou autres. Je suis juste, en fait... moi, ma crainte, c'est que ça devienne un truc systématique. Et je trouve que, pour le coup, j'étais plutôt rassuré dans les derniers épisodes de la série, quand elle nous fait découvrir des choses sur les personnages par d'autres biais. Par exemple, celle qui s'appelle Crazy Eyes, qui est un peu la wife de l'héroïne dans les premiers épisodes,
qui a l'air complètement folle.
Ouais. Et quand on découvre, en fait, par une scène toute bête où elle est visitée par ses parents, qu'en fait, ses parents sont blancs, que sans doute elle a été adoptée, et alors qu'on imaginait, enfin, moi j'imaginais quelqu'un qui venait du ghetto à la The Wire, et on découvre autre chose, et c'est plutôt intéressant, et je trouve que ça m'aurait un peu. Ça fonctionne sans flashback, et de la même façon, la prof de zen, de yoga, où on nous fait comprendre de manière un peu appuyée qu'elle a tué un gamin et que c'est pour ça qu'elle est en prison. Faut pas que j'en dise trop. Il y a une scène assez jolie où elle raconte en fait comment elle s'est retrouvée en prison, et je trouve que ça fonctionne très très bien dans cette scène, et un flashback aurait sans doute été un peu ennuyeux. Donc j'espère juste qu'ils vont pas abuser des flashbacks, ça va pas devenir un gimmick.
Je crois d'ailleurs que la backstory, on va dire, de celle qui m'a le plus intéressée, qui m'a le plus touchée, on va dire, c'est justement cette femme du yoga, quoi. Et c'est vrai que la manière dont c'était amené était particulièrement bien, et que j'aurais pas voulu voir ça. Ça avait beaucoup plus de force qu'elle le raconte elle.
Voilà. Et à l'inverse, le flashback sur l'espèce de folle de Dieu, pour le coup, là je trouve que ça a apporté quelque chose, parce qu'on ça montre effectivement un côté du personnage qu'on connaît pas et qu'on aurait sans doute pas pu voir par d'autres.
C'était lequel ?
C'est celle qui a les dents toutes pourries.
Ouais, c'est...
On découvre comment elle s'est retrouvée en prison.
C'était quoi déjà ?
Elle a tué en fait une infirmière dans une clinique d'avortement.
Elle devient l'égérie
Je sais pas si c'est un truc parce que j'étais stupide ou parce que j'ai pas compris, mais ce flashback dans lequel on voit une gamine de qui les autres enfants se moquent parce qu'elle a pas des fringues, les dernières fringues, ce genre de choses.
Oui,
ça c'est Alex, la lesbienne.
Et à la base, moi j'avais compris que le flashback était celui d'une autre.
La transition était bizarre, j'ai compris après en fait. Mais
moi justement, je trouvais ça bien parce que du coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de mini twist où tu réalisais qu'en réalité c'était sur Alex, mais peut-être que c'est juste moi qui étais stupide et qui n'ai pas été capable de comprendre.
Non, c'était peut-être fait exprès, je sais pas. Mais ça, pour le coup, les flashbacks sur Alex, ça fait typiquement partie des flashbacks qui, moi, me semblent inutiles. Enfin, nous expliquer qu'elle était pauvre et que c'est pour ça qu'elle... Enfin, ça m'a pas passionné.
Moi, j'ai le flashback sur le fait qu'elle était pauvre, c'est un truc qui m'a intéressé dans le contexte où j'ai pas tout de suite compris que c'était le sien. Mmh. Ça, je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé bien pour ça. Parce qu'à la fin, t'es surpris que ce soit vraiment Alex, enfin, qui est quand même, voilà. Très claire ma phrase. Mais j'avais trouvé ça intéressant dans le contexte où c'était pas directement attribué à elle. Mmh. Mais c'est vrai. Enfin. C'est vrai que par exemple le flashback où on voit que l'héroïne la quitte juste après que sa mère soit morte, c'est vrai qu'il n'y avait pas, dans la scène, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions et que ça passait un petit peu à côté de ce que ça aurait pu être.
Oui.
Et puis c'était en trop pour. Enfin, on l'avait déjà, on le savait déjà. Ouais. Et on n'avait pas besoin de le voir, surtout si c'était pour le voir d'une manière qui apportait pas grand chose à la série.
Non, c'est vrai. Enfin, on parle beaucoup des flashbacks, mais en fait, la série, de toute façon, c'est un aspect mineur.
Minutes, hein, mais maximum par épisode. Et au-delà de ça,
au-delà de ça, c'est assez irréprochable. Enfin, moi, j'ai pas énormément de réserves à l'encontre de Orange is the New Black.
Non. Moi, j'en ai aucune que de l'enthousiasme.
J'ai pas été aussi enthousiasmée que la plupart des gens que j'ai lus, par exemple, sur Twitter ou ce genre de choses. Mais je sais que c'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, en tout cas.
Moi, je trouve que c'est un ensemble de personnages.
C'est spectaculaire la façon qu'elle a de nous faire découvrir et de gérer en même temps, c'est quoi, 15, 20 personnages principaux,
mais même les...
qu'on connaît quasiment tous. Ce qui est drôle, c'est de les voir. On est habitué à regarder des séries, donc on est habitué à voir des gens en fond qui sont des figurants. Et trois épisodes plus tard, ces gens auxquels on s'est habitué en fond
prennent le devant
de la scène. Tout se fait de façon naturelle. Tous semblent avoir vraiment quelque chose d'individuel. Enfin, c'est vraiment des personnages.
C'est les personnages qui sont tous entiers,
entiers, qui ne sont pas des caricatures. Et puis, il y a un mélange des registres qui est génial dans la série. Enfin, c'est ce que j'ai vu de plus drôle cet été.
Parce que tu ne regardes plus Wilfred.
Probablement.
Non, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont extrêmement drôles. Et en même temps, la série n'est jamais drôle, ni trop légère.
Mais c'est pas loufoque, c'est jamais en se moquant des gens. Et puis, il y a des moments de tension, mais gigantesques. Le moment où le mec de la blonde, Jason Biggs, passe à la radio.
Oh, oui, c'est génial.
C'était merveilleux.
Mais j'attendais, j'étais terrifié pendant tous les épisodes. Je me disais, bon, peut-être qu'ils ne l'écouteront pas, peut-être que finalement ça...
Et c'est super beau de voir les réactions des personnages.
Et on ne s'attend pas, et c'est ça, il y a des réactions, des gens, ils sont juste contents d'être cités à la radio et qui sautent partout.
Et là, pour le coup, tous les acteurs dans cette scène, justement, où ils écoutent ce truc, tous les acteurs arrivent sans aucun dialogue, ou presque, enfin, sans aucun dialogue, arrivent à te faire ressentir... Mais des trucs, mais fort, vraiment. Enfin, la réaction de Crazy Eyes au passage de la radio, moi, vraiment, je sais que ça m'a pris au cœur, ça m'a vraiment ému, quoi. Et c'est peut-être pas quelque chose que toutes les séries seraient capables de faire, parce que c'est vrai que faire passer autant d'émotions juste sur vraiment le pur jeu, les mimiques, tout ça, j'ai trouvé que c'était fort, quoi.
Mais c'est aussi que c'est très, très bien construit de la part des scénaristes, de la façon de construire leur personnage, c'est vraiment impressionnant. Tout ça en 13 épisodes, on a l'impression que c'est une série, au bout de 7 ou 8 épisodes, on a l'impression que c'est une série dont on regarde la 4e ou la 5e saison. Tellement il y a de personnages, tellement on a l'impression de les connaître.
Et tellement ils sont tous indispensables, parce que la fille qui sort de prison, là, qui réussit à se faire libérer sur parole,
on est dégoûté quand elle revient, parce qu'à la fois, en tant que spectateur, on est hyper content qu'elle soit là. Mais au final, on se dit, c'est trop con pour elle, on sait qu'elle n'existe pas. Mais c'est vraiment très, 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 très fort. Moi, je ne m'attendais pas de ça, de la créatrice de Wiz, parce que je n'avais jamais... Enfin, comme tu dis, elle sait créer des univers, elle sait créer des personnages.
Mais elle sait
là,
surtout les bousiller.
Pas tant que ça, parce que moi, je n'ai jamais été fanatique des premières saisons de Wiz.
Moi, j'aimais énormément.
J'ai préféré la fin quand c'était plus ambitieux et que... Ce que j'aime chez elle, c'est que quand elle fait un cliffhanger, peu importe la nature du cliffhanger, elle va le gérer la saison d'après. Elle ne fait jamais des 6 mois après, tout s'est bien passé.
Non, oui, c'est tout à fait vrai. Et du coup, on peut attendre du vraiment très bon de la saison 2 d'Orange is the New Black, parce que cette fin, la fin d'Orange... Bon, là, on ne va pas la spoiler, parce que voilà. Enfin, je préférerais qu'on ne la spoile pas.
Non, mais on ne va pas spoiler. Mais
je trouve que la fin...
C'est un cliffhanger.
Hein? Oui, ouais, c'est pas un truc à vous faire tomber de la falaise ou quoi que ce soit.
Non. Ah non, mais pour moi, c'est quelque chose qui peut amener des situations super intéressantes. Et je sais, enfin, je suis à peu près sûre qu'elle, quand elle va faire la saison 2, elle le gérera de manière intéressante.
Ah bah oui.
Ouais.
Parce que s'il y a un truc
Et
qu'elle
puis
gérera bien, effectivement, c'est les résolutions de Cliffhanger.
Et puis c'est un cliffhanger qui est assez intéressant parce que c'est pas dans le sensationnel, on sait plus ou moins
On
donc
s'y attendait, on
voilà,
pouvait.
mais c'est assez logique en fait avec enfin c'est cohérent avec l'ensemble de la série qui montre l'évolution effectivement, enfin comment la prison change ce
Les gens,
personnage qui
ouais.
pensait en débarquant dans la prison ne pas changer et limite éduquer les autres prisonniers
Voilà, ouais.
qui n'avaient pas eu la chance d'avoir son
Qui
éducation
s'était
quoi.
préparé à la
Et du
prison en
coup
lisant un livre, ce genre de
mais
choses, ouais.
non mais c'est vraiment une série à enfin et pour le coup c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'en série Orange is the New Black et c'est ça qui fait aussi enfin une série où on a plaisir à retrouver les personnages, où on les découvre petit à petit en...
Et c'est une série où tu es content de suivre beaucoup de personnages, contrairement à Game of Thrones ou des trucs du genre, où tous les personnages ont l'air d'être pareils, et où tu as tous envie
Ouais.
qu'ils crèvent.
Et où en plus on découvre, enfin, c'est quand même la seule, c'est une série où on voit des personnages qu'on ne voit d'habitude jamais, enfin vraiment,
Comment ça?
Déjà parce que les personnages viennent de tous les milieux, sont de toutes les couleurs,
Ouais.
il y a des
C'est vrai qu'en ce moment, aux
lesbiennes, il y a du
États-Unis, on voit
couple,
très très
enfin...
peu de personnages de séries qui parlent des pauvres,
Ouais.
Ou alors, ou même enfin, la trans aussi,
Ouais.
enfin, j'ai
Qui est
trouvé
joué
ça.
par une transsexuelle,
Ouais, je sais,
apparemment.
ouais. J'ai trouvé ça, enfin, j'aime beaucoup. Et en plus, le personnage est bien traité, enfin, ça va pas du tout dans des clichés, c'est vraiment humain, quoi. C'est intelligemment traité, c'est humainement traité, et c'est pas juste pour c'est pas pour se dire, ah, tiens, on va foutre en trans dans la série, parce que ça peut être potentiellement à la mode. D'essayer d'être un petit peu en dehors des sentiers
Et
battus, non, c'est
machin, ouais,
vraiment.
c'est pas, oui, c'est
Non.
pas, ça se pose pas du tout de ce point de vue-là. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment surpris aussi, c'est l'histoire d'amour entre le garde et la prisonnière, où en gros, là, on se dit, bon, bah, ça y est, passé forcément le passage obligé de la série dans une prison de femmes. Enfin, et c'est touchant, et c'est l'une
Tout
des
à
choses
fait,
les
ouais.
plus tragiques qui se passent dans la série avec la façon
Dont elle
dont ça
gère
se
sa
déroule,
grossesse.
dont ça se gère dans les
Après.
derniers épisodes. C'est vraiment une série très très surprenante. On s'y attendait pas. Ce qui est drôle, c'est que des quatre séries,
De
quatre, cinq
Netflix.
séries que Netflix a lancées, c'est celle qui a sûrement eu le moins de promo.
Et
Et c'est
pourtant, c'est
celle qui est
la
vraiment
meilleure.
la plus réussie.
Ouais.
Ouais.
Tout à fait, ouais. Enfin, moi, c'est. Je suis
Et
contente de l'avoir découvert.
pourtant, c'est une série sans effet parce qu'il n'y a pas un casting. Enfin, le casting, il n'y a personne qui est connu à part Jason Biggs et c'est pas non plus une grosse star.
Celle qui joue Alex, elle était quand même un petit peu connue avant.
Oui, elle a
Je
fait.
sais.
Oui, c'est ça,
Mais bon,
c'est
elle
connu
était
dans
assez
les séries
connue
télé,
US,
voilà,
mais
justement.
c'est pas.
Voilà, oui,
Ouais,
c'est
elle est
des
quand même
visages
du
qu'on
niveau
peut connaître,
de.
mais.
Ouais, un ancien de. That 70's Show, c'était ça?
Je crois, je sais plus, je t'avoue.
Elle jouait. Oui, c'est pas Ashton Kutcher, mais même.
Oui.
Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas,
Non,
de
mais
star, c'est.
il n'y a pas de
Y a pas de
star.
star, mais tous les personnages ont le potentiel pour devenir des stars. Enfin, si tu vois ce que je veux
Bah, à
dire.
part que. Ils n'ont pas le physique qui leur permettra de devenir des
Oui, non,
stars de.
mais
Ah oui, enfin
la
le.
qualité du personnage, enfin, c'est des personnages pour moi qui chacun pourrait. Enfin, peut-être
Ouais.
pas, mais chacun pourrait être. Chacun est un peu la star de la série TV, chacun son tour. Et c'est pas
Ah, c'est
vraiment.
ça, moi, de toute façon, toutes les 10 minutes, je changeais de personnage
Préféré,
préféré,
ouais,
quoi.
tout à
Ça,
fait, c'est
c'est
exactement ça.
impressionnant. Et il n'y a aucun personnage où
Où tu
Il n'y a
dis,
pas de
on se dit,
boulet, on
il
peut
n'y
s'en
a pas de
passer,
boulet,
quoi. Il n'y a pas de
voilà.
boulet, on sait
Au
un an,
début
pourquoi un
je me
épisode
disais,
sur elle.
je me disais que Crazy Eyes avait le potentiel d'être un boulet.
Ah non, pas du
Et
tout.
en fait, au final, c'est magnifique la manière dont il la traite. Pour moi, c'est un sans faute, quoi.
Mais
Et
même le personnage principal, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure,
Ouais,
la blonde.
c'est pas celle que j'aime le plus,
Mais c'est
mais
pas,
je la
enfin,
supporte. Enfin,
mais elle est
c'est pas que je
pas,
l'aime pas.
c'est pas Ally McBeal, c'est pas le
Non.
personnage central
Ouais.
insupportable.
C'est un bon personnage central. Enfin,
Moi,
mais tous les
son
personnages
histoire
auraient
me
des
plaît
problèmes.
énormément.
Ouais.
C'est vraiment un très bon fil conducteur. Et même son histoire là avec son mec qui est de l'autre côté, avec toutes ces descriptions du milieu bobo américain. Enfin. Est vraiment bien trouvé parce qu'effectivement, surtout, c'est aussi la façon dont fonctionnent les séries américaines en ce moment. C'est en gros, c'est toujours eux qui ont la parole, c'est toujours eux qu'on voit, c'est toujours leur problème qu'on voit. Et à travers Orange is the New Black, on nous dit, vous êtes bien gentil, mais c'est un vingtième, en gros, si on devait faire des petites boîtes, des catégories, c'est quand même un vingtième, ça représente un vingtième de la population, des gens. C'est vraiment une série formidable.
Oui, je trouve
c'est...
aussi.
Et tout, c'est un sans faute, effectivement.
Alors, autre série qui plaît à énormément de monde, mais qui va s'achever sur AMC dans 5 semaines, c'est Breaking Bad. On en est à la fin. Ici, autour de la table, on n'est pas des fanatiques de la série,
sans
ne pas l'aimer ou ce
genre de
choses. C'est
une bonne série, on est tous d'accord là-dessus, je pense.
Oui, c'est une bonne série. Une
série pas mal.
Mais qui a des défauts, et c'est un peu agaçant de voir que certaines personnes, notamment chez les critiques, passent outre, enfin, ignorent complètement
c'est
les défauts sous prétexte que c'est la meilleure série du monde. Bon.
Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Dans les défauts.
Alors par contre, moi, qui est pas du tout, qui a vraiment suivi la saison 4 avec d'énormes difficultés. Enfin, moi, j'en pouvais plus de... Comment il s'appelle? Jesse. C'est un personnage que je supporte pas.
Pourquoi t'aimes pas Jesse?
Je l'aime pas parce que c'est un personnage stupide. Et on dépasse pas ça depuis la première saison, c'est-à-dire qu'il est débile.
Je trouve pas qu'il soit
débile.
Il
est vraiment débile.
Ah, je trouve pas.
Il est stupide, il n'apprend jamais de ses erreurs, il refait toujours la même chose, et à la fin, on se retrouve avec un personnage qui geint, parce que... Alors, peut-être que c'est comme Skyler, c'est-à-dire que peut-être qu'il est, au final, pas si bien écrit que ça, et que c'est ça qui me stresse, mais c'est un personnage qui me plaît pas, tout comme Walt, qui était devenu cette espèce de caricature de super méchant.
Enfin, dans l'autre, Jesse, c'est celui que j'aime le plus, parce que j'aime vraiment pas Skyler, parce qu'elle a été construite uniquement par rapport à son mari, et du coup c'est vraiment dur de... Enfin, elle est construite tellement par rapport à Walt que tout ce qu'on voit vraiment, c'est les défauts qu'elle peut avoir dans sa relation avec Walt. La seule intrigue qu'elle a eue vraiment à elle, c'était Ted. Et c'était encore quelque chose... Enfin, c'est quand elle trompait son mari. Et puis c'était encore quelque chose qui avait été utilisé pour provoquer une réaction chez Walt. J'aime pas Walt non plus parce que...
Mais tu l'aimes pas en tant que personnage ou tu l'aimes pas en tant que personne si elle existait vraiment?
Les deux.
Tu trouves que c'est un personnage mal écrit ou
C'est pas vraiment qu'il soit mal écrit. Déjà, oui, c'est un être humain détestable. Mais aussi, je trouve que le personnage tourne un petit peu en rond. Tu sais
S'il y a du bruit, c'est pas qu'il pleut, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue avec...
D'accord.
C'était bizarre ce bruit. Ouais.
Effectivement, j'ai cru qu'il s'était mis à pleuvoir. Non, c'est juste que, Walt se répète un petit peu, il a souvent la même attitude, je suis le maître du monde, laissez-moi faire ce que je veux, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela, blablabla. Je trouve que ça se répète un petit peu. Je continue à aimer Breaking Bad, sincèrement. J'aime bien la série. J'aime beaucoup. J'aime même. Enfin, c'est parmi les séries que j'aime énormément parce que ça provoque des émotions. Ça peut te surprendre parfois. Les fins d'épisodes sont souvent assez. Il y a beaucoup d'intensité dans la série. Mais
un
après.
Un peu trop.
Voilà.
Je trouve que la série joue. Ce qui me plaisait moins dans saison 4 et en première moitié de saison 5, c'était ces passages obligés que la série s'imposait, ces espèces de grandes séquences.
Les scènes à Amy.
Tendues,
les
la scène du train, les monologues, monologues de Jesse. Ah tiens, là, ça c'est. Ah bah Jesse va encore nous faire un monologue dans son machin.
Ah,
Walt
non, mais
va faire un autre monologue.
Pas
Walt
que Jesse,
aussi.
Pour moi il y a tous
énormément.
Les personnages.
Mais au-delà de ça, ces 3 épisodes. En tout cas, m'ont énormément plu. Enfin, ça fonctionne
aussi.
Plutôt très bien.
Mais
c'est
reste...
une série qui va peut-être pouvoir bien se terminer.
Mais il reste le problème que dans la série, pour moi, il y a trop de scènes à Emmy. Enfin, des scènes où t'es là, ouais, ça c'est une scène que les mecs des Emmy Awards vont kiffer.
Oui, il y a un peu de ça, effectivement.
Il y a vraiment des scènes où t'es là, ouais, ça c'est une scène qui est faite pour ça, enfin... Pour ça, et d'accord, ça marche bien dans la série, mais tu sens quand même cette espèce de volonté de montrer à quel point ils peuvent être brillants.
Mais moi, mon gros problème que j'avais avec...
C'est presque self-conscious, en fait, comme série. Ouais. Pardon,
oui, non, mais d'une manière, en fait, même dans leur manière de filmer, il y a des moments où la série est très bien filmée, puis il y a des moments où, quand ils décident de foutre la caméra au fond d'une
cuve, dans un truc,
je suis là, oui, bon, ça,
ça
va...
Ça, c'était hyper surprenant, c'est peut-être dans le deuxième épisode, là, qui est passé, où la serveuse amène la cafetière sur la table.
Ouais.
Ah, ben, c'est avec... non, c'était l'ouverture de la troisième épisode avec le mec de Friday Night Lights. Et la caméra est sur la cafetière et arrive sur la table.
Des fois,
ça masque un peu le creux des scènes, honnêtement. Hein, parce que cette scène n'avait aucun intérêt. Et
aucune
justification.
Pourquoi la caméra est là à ce moment-là? C'est juste
Il faudrait absolument que Funny or Die ou Colette Jumor fassent une parodie de Breaking Bad où ils prennent vraiment les POV les plus absurdes que tu peux avoir.
Les quoi?
Les POV, les point of view. C'est ça, cet effet de caméra. Ils devraient faire une scène... Une scène où vraiment ça prend des POV absolument absurdes juste pour montrer, oh regardez, on fait quelque chose en vue subjective.
Je suis pas sûr qu'ils aient besoin de faire la parodie parce qu'en fait Breaking Bad, des fois t'as limite l'impression qu'ils s'auto-parodient. C'est-à-dire qu'ils le faisaient bien par moment, mais il y a un moment ils en ont un peu abusé. Et c'est vrai qu'il y a des moments la série, effectivement c'est un peu prétentieux. Enfin, ça devient. La forme prend vraiment le pas sur. Enfin, compense des fois l'absence de fond de certaines scènes. Que ce soit au niveau des acteurs qui effectivement en font 3 tonnes sur un truc qui est pas si exceptionnel. Après, moi, ce qui m'agaçait dans Breaking Bad depuis 2-3 ans, c'est que la série tournait un peu en rond parce qu'à un moment, forcément, comme ils voulaient pas casser leur série, et bien Jesse, chaque saison, il s'apercevait que Walt était pas gentil, puis il redevenait toxico, et puis Walt l'aidait à s'en sortir, et puis ça recommençait. Hank s'apprêtait à trouver Walt, et puis il le trouvait pas, et puis Walt devenait très méchant, mais il fallait pas qu'il soit trop méchant non plus. Et là, on peut enfin avancer, et du coup, je pense que ça ne peut être bien. Je suis pas
un génie. Par rapport à Jesse, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment gênée, parce que ce type de comportement, c'est un comportement auquel tu peux t'attendre venant de quelqu'un qui est un camé. Les camés que je connais, c'est exactement ça. C'est
oui, mais c'est pas pour ça.
C'est pas pour ça que ça fait
de beaux personnages de série.
Moi, je trouvais ça intéressant parce que c'était entre guillemets honnête sur ce que pouvait être un addict, sur les comportements.
Mais sauf que c'est pas n'importe quel addict. Jesse, c'est le héros de la série avec Walt. Et à un moment, t'attends que sur 6 ans, il évolue un peu.
En même temps, quand tu vois ce qu'il vit, pour moi, c'est normal que tu restes bloqué un peu au stade où t'es vraiment mal, où tu te poses des questions sur ce que t'es en tant qu'être humain.
Moi, ça me dérange pas qu'il évolue pas en même temps. Mais le problème est que son absence d'évolution ne m'intéresse pas.
Voilà.
C'est que ça m'intéresse pas. Ouais. C'est que je trouve que depuis 3-4 ans, 3-4 saisons, c'est assez maltraité ça dans la série.
Moi, ça m'intéresse. Enfin, du coup, il y en a pour tout le monde. Enfin, moi, je pense peut-être qu'il y a 2 ou 3 autres spectateurs qui sont aussi intéressés par l'absence d'évolution de Jesse.
Mais en fait, Jérôme a raison, c'est pas l'absence d'évolution, c'est le fait que du coup, tous les 4 épisodes, on se tape la scène où Walt va trouver Jesse sur son canapé où il a pris de la drogue et lui fait un petit pep talk pour le manipuler.
Ça, oui, je suis d'accord.
Et les deux, trois premières fois, c'était intéressant. Au 6e, honnêtement, ça peut être bien écrit, ça peut être bien joué. Enfin, une série, il faut que les choses évoluent. C'est pas un...
Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, le fait que Jesse continue à être vraiment un type paumé qui a du mal avec sa conscience, c'est quelque chose que j'apprécie énormément.
Mais ils n'arrivent pas à en faire quelque chose qui intéresse en permanence.
Voilà, oui, ça je suis d'accord.
Et là, je suis content du coup parce que je pense que là, vu le dernier épisode, Jesse et Walt, ça y est, il y a quelque chose qui va changer. Et du coup, on va pouvoir voir quelque chose d'un peu différent dans la suite.
Et du coup, ça annonce une bonne. Enfin, ça laisse envisager une bonne fin de série.
Ouais, j'attends de voir, mais oui.
C'est quoi vos pronostics pour la fin de la série?
J'en ai aucun.
Vous y avez pas pensé?
Non.
Non, okay. Mais non, parce que si tu y penses, après, tu seras pas surprise. Donc,
Vous n'avez pas d'envie particulière, de trucs
Moi, je pense qu'ils vont faire une fin à la The Shield, mais
j'ai pas vu The Shield. D'accord, donc t'es plus avec
toi. Mais enfin, je trouve... En fait, je pense que le problème de Breaking Bad, c'est qu'effectivement, la fin va vraiment, redéfinir la série.
Ouais,
parce qu'en fait, Breaking Bad, un des gros soucis que j'ai eu aussi avec la série, c'est que Walt est un anti-héros. On nous fait clairement comprendre que c'est un connard, qu'il ne faut pas l'aimer. Mmh. Mais en même temps, la série, de manière très complaisante, le traite comme un héros. Et des fois, effectivement, à un moment, je trouve que c'est un peu la limite de la série de le rendre... Enfin, il y a la saison 4, il le rendait le plus charismatique possible, le plus badass possible, parce que c'est ce qu'aiment les fans, tout en disant, attention, quand même, c'est quelqu'un
c'est
de pas
méchant,
sympa. Du coup, en saison 5, ils sont obligés de lui faire tuer des gamins et tout, pour nous rappeler qu'il est méchant. Et effectivement, du coup, la rétribution entre guillemets qui va arriver
elle
sur les personnages, elle va définir
série,
un peu l'ensemble de la série.
Mais... ouais, je suis assez d'accord. C'est pour ça que j'ai envie que Walt crève.
Mais moi, ce que j'aime dans cette nouvelle saison, c'est que justement, moi, je trouve que la série, elle n'est jamais meilleure que quand Walt, au lieu d'être justement un espèce de drug lord hyper charismatique, il est complètement pris au dépourvu.
Tout à fait.
Il s'est obligé de réagir.
Il est réagi à l'instant
de manière comme un gros connard. C'est là qu'effectivement, le personnage est le meilleur. C'est parce qu'il arrive à nous surprendre. Et on se rend compte, effectivement, que Walt est extrêmement intelligent. Ouais. Je ne sais pas à quel point sa confession est crédible, etc. Puisque je ne sais pas à quel point, comment il s'appelle, Walter White est un acteur aussi bon que Bryan Cranston. Je sais. Ouais. Mais cette scène...
Cette scène est merveilleuse. Ouais.
Elle est extraordinaire. J'ai été soufflé là, justement... On n'est pas, enfin c'est pas de la manipulation facile, c'est juste que on est piégé, on s'est fait prendre.
D'accord, oui.
Là ils sont trop forts.
Ouais. C'était bizarre. Mais ça en même temps, ça me gêne qu'il y ait cette espèce de plaisir que Walt ait réussi de nous voir s'en sortir, parce que Walt, au demeurant, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de voir réussir. C'est quelqu'un que j'ai envie, dont j'ai envie qu'il se pète la gueule et qui soit vraiment dans la merde, parce que j'ai envie de
mais au
perdre,
final
quoi.
Au final c'est très cliché ce que je vais dire et ça a dû être repris 150 000 fois et essentiellement pour défendre Lost, c'est-à-dire que c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin, je sais pas quoi, le voyage. C'est vrai que c'est plutôt marrant, la destination va être très importante parce qu'effectivement si c'est tout ça pour ça, voilà, on
si
sera un peu calmé quoi, peu importe la brillance
si Walt arrive à s'en sortir, mais... pour moi la série sera passée à côté de ce qu'elle aurait dû être, parce que
mais ce moment là est quand même un vrai plaisir de téléspectateur où on se fait avoir avec
de le voir avec les deux de découvrir en même temps que les deux personnages de Hank et Marie. Et de voir qu'ils réalisent en même temps que nous, à quel point c'est un commun.
Oh non, le bâtard.
Ça, c'était très très fort. Et donc, rien que pour ça, effectivement, Breaking Bad n'est pas une série...
C'est une bonne série.
Indispensable.
Et
si, je trouve quand même que c'est relativement indispensable. Enfin, quand
non,
tu regardes...
Non, mais c'est pas
quand tu regardes par rapport aux séries...
C'est que je me suis mal exprimé. Ce sera une bonne série. Enfin, ou intéressant, je sais pas.
Non, mais c'est une très bonne série.
C'est
une série qui a des défauts et il faut pas. Voilà,
faut pas
et qui est un peu complaisante
si
parce que, comme tout le monde crie au génie, je pense que les scénaristes sont parfois un peu. Ils ont un peu abusé de certaines recettes.
Peut-être
ou de
le syndrome
certaines
de
choses.
Lost, en fait.
Voilà. Ouais.
Et alors, il y a quand même un truc dans Breaking Bad, je sais pas pour vous, mais moi, quand ils arrêtent pas de dire ça fait juste pile un an que Walt a commencé à faire du meth, je n'y crois pas une demi-seconde.
Ouais.
Ça, clairement, c'est l'un des plus gros défauts de la saison, c'est son utilisation du temps, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, enfin, mis à part si on regarde la série en une semaine, on se fait une intégrale, peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a qu'une année qui s'est passée.
Je suis pas sûr, elle a eu genre un enfant...
Elle s'est remise d'avoir eu son enfant.
Elle a quitté son mari.
Il y a eu quand même énormément d'événements pour dire que ça fait qu'une année que ça s'est passé.
Ça fait qu'une année normalement.
Année depuis le début. Donc Hank, il s'est fait tirer dessus, il s'est fait rééduquer, il a réappris à marcher, elle est là à coucher.
Et en plus, Jesse, là, il a eu cette. Il a été amoureux de Jane et tout ça. Et bam, il y a eu une autre.
Il a été 5 fois en désintox en un an.
Hein, je trouve que pour dire qu'il est tombé amoureux, mais vraiment où il était à fond dans la relation, 2 fois en une année, ça me paraît non.
Mais surtout, après, je sais pas pourquoi ils se sont imposés cette contrainte, parce que finalement, ils veulent absolument dire que c'est un an, peut-être à cause du cancer ou autre, mais ils sont pas obligés de le préciser.
Petit flashback du début où ils nous expliquent c'est les 51 ans de
Watt,
les 52 ans, et ils n'ont pas réussi à justement
ils ont dû se faire avoir avec le temps en se fixant à la base.
Ils n'auraient pas dû se fixer.
Peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant.
Est-ce qu'il y a autant de saisons dans la saison 5, donc ils n'avaient aucune raison de se fixer cette contrainte. Enfin, surtout à la limite, peu importe la durée, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils se sentent obligés de nous rappeler tous les épisodes alors que c'est pas crédible et que ça n'apporte rien en plus. Donc. Et qu'en plus, les gamins de Walt ont 6 ans en l'équivalent d'un an.
En parlant de séries qui avaient de grandes attentes à leurs égards, qu'on a encensé et que, qui au final
avec,
nous ont
avec
déçus.
Raison.
Avec raison. Et qui
je
nous
reste
ont déçus.
Persuadée, même si je n'ai pas revu l'intégralité des saisons 1 et 2 de Teen Wolf, que ce sont deux excellentes saisons.
Deux très bonnes saisons qui nous ont déçus par la suite. Avec la saison 3, qui est une grosse bouse.
Mais ce qui est étrange avec cette saison 3, c'est que les scénaristes se sont focalisés sur fondamentalement ce qu'il y avait de moins intéressant dans la série, c'est-à-dire les histoires de loups-garous. Ouais. Tant que les loups-garous, c'était une façon de... un peu innovante de gérer les relations entre des personnages adolescents, de faire des blagues... de façon pas très subtile sur l'homosexualité et tout. Moi, je trouvais ça très drôle, très bien. Mais alors que là, on se tape 12 épisodes avec, pour le coup, autant de loups-garous qu'il y a de prisonnières dans Orange is the New Black. Mais par contre, l'exécution est pas aussi bonne, puisque moi, clairement, et c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, même si j'étais déçu par les premiers épisodes, c'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre mon cerveau en veille en regardant Teen Wolf.
C'est-à-dire
qu'il y a plein de personnages, je ne savais pas qui c'était, alors que c'était la cinquième ou sixième fois que je les voyais dans les épisodes. Je ne savais pas, j'ai pas bien compris les différents types de loups-garous, les différents clans,
les différentes couleurs d'yeux, les différents trucs.
Mais j'ai rien compris.
Et comment est-ce qu'un truc devient alpha? Enfin, c'est genre, j'ai l'impression que c'est devenu tellement obscur pour le... For the sake of being obscure.
Alors moi, je vais défendre la saison après, parce que j'ai trouvé que... Enfin, je vois pas l'écart de qualité, en fait, dont tout le monde parle entre la saison 2 et la saison 3. Je trouve la saison 3 effectivement plus faible, elle a beaucoup de défauts, mais je l'ai suivie avec plaisir. Après, ce qui est sûr, c'est que Teen Wolf, c'est une série d'été que moi, honnêtement, je regarde un peu pour... Enfin, vraiment, pour me distraire et c'est tout.
En saison 2,
et j'ai trouvé ça étrange que la saison 3 soit plus difficile à suivre qu'une saison de The Wire. Parce qu'effectivement, il y a des personnages de partout. Je comprends rien à leur motivation. Les règles changent à chaque fois. Je ne comprends toujours pas qui est Lydia, quels sont ses pouvoirs qui lui permettent...
Lydia, c'est la Banshee.
Lydia, non, c'est la fille qui crie, là.
Oui, la Banshee.
Oui, non, mais d'accord.
C'est une Banshee.
Ils ont... Ils disent que c'est une Banshee, on ne sait pas
ils
ce que c'est.
Mais oui, c'est ça. On ne sait pas ce que c'est.
Le loup-garou, là, celui qu'elle a ressuscité dans la saison 2,
qui
traîne en arrière. Non, l'oncle d'Eric.
Qu'on voit dans la 5. Voilà.
J'ai absolument pas compris qui c'était ce mec, je ne m'en rappelais pas.
En fait, il traîne en arrière-plan depuis une saison et demie.
D'accord.
Parce qu'il a été ressuscité, et en fait, il était méchant, mais quand il a été ressuscité, je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à traîner en arrière-plan avec les gentils, mais on ne comprend pas trop.
Parce que c'est comme Jésus.
Et j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi il était ressuscité ni rien. Enfin,
mais écoute, je me rappelais même pas de son personnage. Enfin, et pourtant, bon d'accord, j'ai vu les deux saisons très très rapidement. Je crois que ça m'a pris une semaine pour regarder les deux.
Et ben maintenant, c'est le méchant.
Oui,
très méchant.
Et toute la saison, il était là. Enfin, sérieusement,
mais
tout
ça pour ça. Les filles loups-garous là. Il y a deux ou trois filles loups-garous, non?
Non, il y en a une.
Il y en a qu'une?
Ouais.
Non,
il y a d'autres filles.
Il y en a plusieurs. Il y a deux, trois filles.
Ah oui, il y a la sœur de Derek.
Il y a la sœur de Derek.
Je n'ai pas compris pourquoi
qu'est-ce qu'elle fout là?
Si, je sais. En fait, je pense
que
c'est parce que l'actrice qui jouait la fille loup-garou en saison 2, je suis sûr que c'est ça, est pas dans la série. Et qu'ils n'ont pas voulu tout rechanger, donc ils ont juste mis la sœur de Derek à la place en tant que personnage. Parce que sinon, je ne vois pas.
C'était qui la fille loup-garou dans la deuxième saison?
Il y avait une blonde, en fait, elle est morte.
Ils dans la banque, non
qu'elle est... Ouais, ils annoncent qu'elle est morte.
Oui, ouais.
Et je pense que c'est ça, parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir ramené un nouveau personnage dans une saison qui était déjà bourrée de nouveaux personnages.
Ah non, mais tout à fait.
Mais après, il y a quand même des choses. Moi, je trouve pas que c'est complètement raté, cette troisième saison, parce que... je continue à trouver du charme à la série. Je trouve que le début était effectivement assez brouillon. Et puis, quand on a avancé dans la saison, ils ont fait des épisodes qui se focalisaient un peu sur un endroit précis. Il y avait un épisode dans l'hôtel, un épisode dans l'hôpital, où ça fonctionnait assez bien. Et je trouve que la série, c'est toujours...
Sincèrement, le seul charme que je continue à trouver à la série, c'est de voir Styles, même si son personnage est devenu... L'acteur reste toujours aussi beau qu'il l'est, mais à mes yeux. Mais alors, son personnage, ils ont totalement enlevé tout ce qui faisait le charisme de Styles. Enfin,
comme
c'est
ils
venu...
se sont concentrés sur les loups-garous, les non-humains ne servent plus à rien.
Ouais.
Et
enfin,
lui n'ayant aucun pouvoir. Oui, les humains. Et lui n'ayant strictement aucun pouvoir, parce que Lydia, on lui trouve un truc à faire.
Voilà.
Pourquoi. L'autre, les argents aussi. Mais par contre, Styles,
Il perd tout.
Il perd tout, puisque c'est lui qui avait un petit peu de connaissances sur les loups-garous. Il aidait son pote à savoir à peu près
quoi faire
dans les situations. Là, il ne sert strictement plus à rien. Exactement. Il court à côté de son ami, qui est loup-garou,
ouais.
Et puis il ne sert à rien. Alors que c'était l'un des personnages les plus drôles.
Moi, c'était clairement à cause de lui que j'aimais les deux premières saisons. C'est parce que Styles était génial. Styles, c'était le nouveau Seth Cohen, le nouveau Xander. Je le trouvais génial. Ouais,
alors, ça fait vraiment pas envie quand, ouais, même, quand tu nous décris ce genre de personnage-là.
T'aimes ni Xander ni Seth Cohen?
Non. Seth Cohen, c'était le pire personnage de The Office.
D'accord, non, pardon. Seth Cohen en saison 1.
Ouais,
oui, c'est ça.
Pire personnage de The Office?
Ah oui,
bah ouais.
Mais il était...
Même Marissa était plus sympa que lui, quoi.
Non, mais
cette
non.
Espèce de trou du cul. Le gosse de riche qui décide.
Mais ta gueule, il lisait des comics.
Oui, c'est ça, quoi. Ah, bah, donc, sous prétexte qu'il lit des comics, il peut pleurnicher dans son coin parce que la bombasse du truc, elle s'intéresse pas à lui.
Alors, non, pour moi, le fait qu'un mec lise des comics, c'est un peu comme s'il y avait une actrice avec d'énormes seins. Ça compense toutes les erreurs qu'il peut faire. Non, donc, mais... je lui pardonne tout. Il lit des comic books. Fais ce que tu veux. Tu peux être un connard. Tu peux fabriquer de la meth si tu veux. Fais ce que tu veux. Continue à lire tes comics et je continuerai à t'aimer.
Et je crois que c'est Jeff Daniels mais qui a écrit les trois quarts. Enfin, il fait son Aaron Sorkin ou son David Kelley avec cette troisième saison. Parce que j'ai l'impression qu'il a écrit quasiment tous les épisodes de la saison.
Ah,
c'est
peut-être le problème, effectivement. C'est que personne ne l'a relu. Parce que, honnêtement, le dernier épisode, il y a des moments j'ai rien pigé. Il y a un moment, Derek se fait soulever par la méchante. Et là, il y a des flashbacks d'une scène où j'ai pas trop compris. Et puis ça... Enfin,
effectivement, parce que la méchante, elle a failli être tuée...
Ouais.
Par une femme loup-garou, c'est ça?
Oui, celle qu'elle tue après, ouais. Oui.
C'est qui, elle?
La méchante?
Non, la femme loup-garou.
C'est celle qu'elle empaille sur plein de morceaux de verre. C'est une des loups-garous de la PAC des méchants loups-garous.
C'est une alliée des jumeaux des
voilà. C'était qui la loup-garou qu'on voyait
celle
dans
a des,
les
celle qui a, sa manu, qui a des ongles aux pieds et personne ne remarque quand elle se balade à l'hôpital, en prison.
Y avait ça, est-ce qu'il y avait ça dans les deux premières saisons où de temps en temps, les loups-garous, ils sortent leur griffe et font... Il n'y avait pas ça dans les deux premières saisons,
je pense pas.
Je pense que c'est la faute du film Wolverine qui a tout gâché.
Non, mais c'est... Après, effectivement, il y a des trucs.
C'est quand même beaucoup.
Les combats de loups-garous sont ratés.
Bah, tout le temps.
Mais moi, l'histoire du druide.
Et puis, je suis désolé, il joue jamais à la crosse, là.
Oui, c'est vrai.
Ah, ouais,
et le coach, il a disparu, non? Le coach de
la... Oui, on le voit
à peine. Il était bien pourtant.
Et c'est ça, place, ils ont perdu leur
ils ont
univers.
Perdu tous les personnages même... cool et ils les ont remplacés par des loups-garous. Qui non, sont même pas ados en plus, donc ça sert à ça.
Ouais. Mais je sais pas, moi, en tant que série vraiment divertissement, je suis rentré dedans.
Non.
Là, il est en train de revenir sur le A, hein, parce qu'il a quand même mis A à la série dans
ah
le tableau.
Ouais.
Non.
Genre, j'ai mis A, mais c'était dans le cadre d'une série divertissante dont on n'attend rien, et dans ce genre-là,
mais je crois
ça correspond
tout
à fait.
Une note assez...
J'attends des choses de la série, j'ai trouvé que dans la saison 3, je suis désolé, moi, il y a quelques épisodes, quand on arrivait à la fin, bah, j'enchaînais direct sur le suivant parce que j'avais envie de connaître la suite. J'ai trouvé qu'il gérait certaines tensions.
Tu vois, moi aussi, il y a eu des épisodes que j'ai voulu enchaîner directement sur le suivant. Mais je pense que le fait que j'ai pas pris la peine de regarder les épisodes en live quand ils sortaient, ça montre quand même bien qu'il a fallu qu'il y ait quelque chose de bien qui me convainque de regarder la fin de la série. Sincèrement, la semaine passée, j'avais pas vu les 5 derniers épisodes.
Et ils sont bien, les 5 derniers.
Ouais, les 5 derniers sont pas mal. Ils sont pas exceptionnels, ils sont même pas, je dirais même pas qu'ils sont bien, ils sont pas mal. Mais alors,
oui, parce
pour
que
moi,
le fait est qu'on ne sait pas qui fait quoi.
Mais en plus,
peu
le fait qu'en
non,
été,
attends, d'accord qu'il y a
en
défauts,
été,
hein,
il y a
mais...
quoi 3 séries que je suis, et il y a une des séries que j'aimais, enfin, qui m'a tellement laissée froide que j'ai regardé ces 5 épisodes en une semaine parce que j'en avais rien à foutre de connaître la suite.
Oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a eu. Le début de saison était moyen et il y a eu un gros creux avec des épisodes à flashback dont on n'avait rien à foutre. J'ai toujours pas compris l'intérêt de ces flashbacks sur les yeux bleus ou rouges ou marrons, ou je sais pas quoi, de Derek, où il nous explique les règles sur les yeux. Après, moi, j'ai trouvé que la fin de saison, un des problèmes, c'est que je pense que leur méchante, qui était pour le coup plutôt réussie, ils l'ont révélé très tardivement et honnêtement, je pense que absolument 100% des gens avaient déjà compris depuis plusieurs épisodes que c'était elle la méchante. Donc c'était un peu, un peu dommage de ne pas faire monter la tension.
Moi, j'ai pas compris quoi que ce soit à cette
scène. Non, mais pas compris, mais enfin, je veux dire, il n'y avait pas 10 000 suspects sur qui pouvait être le méchant.
Mais je ne cherchais même pas les suspects, quoi, j'en avais rien à foutre.
Et elle était d'ailleurs bien plus intéressante, enfin, elle jouait mieux en méchante qu'en gentille. Donc,
oui.
Mais je,
ah, non, tu parles de la prof, là.
La prof, ouais.
Okay, oui.
Et je trouve que la série, il y a des moments, elle est. C'est très mal réalisé, très mal filmé sur les combats de loups-garous. Il y a des moments où je trouve qu'il y a quelque chose d'assez virtuose en fait, dans la mise en scène. Je sais pas, ils essayent des choses. Il y a des scènes dans le lycée, des scènes de...
Moi, j'adore les scènes en fin de
vue. Que je trouve assez réussies. Et j'attends pas forcément ça d'une série MTV adolescente. Et je trouve
pour la peine, cette saison, c'est exactement ce qu'on pouvait attendre d'une série MTV. Alors que la plupart des séries MTV de séries MTV se sont hissées au-dessus de ce qu'on pensait avec nos préjugés qu'on pouvait attendre d'MTV. Pour moi, là, cette saison 3 de Teen Wolf, c'est un des trucs les plus décevants que j'ai vu fait par MTV.
Oui.
Sauf peut-être 16 and Pregnant. Bon.
Mais si on parle juste des
séries
MTV, ils ont quand même fait pas mal de très bonnes choses.
Ils ont fait Underemployed.
Ils ont fait Zack Stone is going to be famous.
Faut que je la termine parce que sincèrement, les 4-5 premiers épisodes m'avaient pas emballé parce que je suis une très grande fan de Bo Burnham et ce qu'ils faisaient sérieusement, c'était de l'auto-parodie. Enfin,
je trouve que ça marchait assez bien.
Mais
vous
parlez d'un truc touchant en fait et je pense que j'en suis simplement pas arrivée à la partie où ça commence à être touchant.
Ah non, puisque moi j'ai, c'est vraiment dans les 6 premiers épisodes, tous les personnages des adultes, les personnages de ses parents sont vachement chouettes. Mais peut-être que justement, toi, comme tu le connaissais déjà.
Parce que le mec, fondamentalement, Bo Burnham est un très très bon. Il écrit pour la peine super bien. Il écrit vraiment. Il écrit surtout du rap ou des textes très très rythmés dans ses stand-up. Et il a une qualité d'écriture qui est vraiment super bluffante, que ce soit par rapport à son âge ou simplement dans l'absolu. Il a une qualité d'écriture qui est absolument bluffante. Il gère le rythme de parole, les mots. Il fait vraiment de la poésie. Limite, de la poésie drôle. Et là, dans Zack Stone is gonna be famous, j'ai rien retrouvé de ce que j'aimais de Bo Burnham. J'y ai pas vu,
regarde les 2-3 premiers épisodes en te disant qu'effectivement ça va pas correspondre à ce que t'attendais. Et tu vas voir que c'est vraiment une jolie réussite. C'est vraiment une jolie réussite sur l'angoisse de ce que c'est de devenir adulte. Enfin, le gars, tu sens que. Il a tellement peur, il sait tellement pas quoi faire en fait, qu'il se dit je vais essayer d'être célèbre. Et finalement, ce qui est drôle aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le regard que porte sur lui son entourage.
Ça me mettait juste mal à l'aise. Enfin...
Mais ça donne des moments. C'est vrai qu'il y a certains moments où effectivement le type est ridicule, risible et on est mal à l'aise. Mais c'est quand même contrebalancé par certains moments terriblement touchants où ses parents sont effondrés et pourtant ils se disent il faut qu'on le soutienne ou il faut que ça reste notre fils. Enfin, et je trouve que en plus tout ça c'est en arrière-plan les regards qu'échangent la mère et le père quand il fait un truc complètement débile ou qu'il leur dit des choses juste pour les parents en arrière-plan, c'est sympa de regarder une série pour juste les trois figurants. Non, et je regarderai pas Wilfred,
c'est
hors de question.
C'est dégueulasse, dégueulasse comme attitude.
Allez, t'as 3 minutes pour nous parler de Wilfred cette saison.
Mais c'est pas une question d'avoir 3 minutes pour te parler de Wilfred, c'est une question que Wilfred, c'est une série qui, pour moi,
n'a plus que 2 minutes 30 maintenant.
Oui, c'est attention. Le but, je suis incapable de parler pendant 3 minutes toute seule, donc j'essaie de remplir tout ça. Non, mais Wilfred, c'est une série déjà ultra touchante par le thème qu'elle aborde, par le fait qu'elle est toujours sur une espèce de corde raide entre le fait que ce que comment il s'appelle ?
Wilfred.
Pas Wilfred.
Le Hobbit.
Ce que Frodon vit.
Ouais.
Il y a toujours une corde raide entre le fait que ce que Frodon vit avec Wilfred soit drôle et le fait qu'il ait une maladie mentale clairement. Et là cette saison, on explore vraiment un peu plus les origin story de ses problèmes mentaux. Et on s'intéresse beaucoup plus à sa famille, on s'intéresse plus aux relations qu'il a avec sa famille. Et il y a peut-être moins de pitreries de Wilfred, et ça devient un peu plus sérieux, et pour le coup, je trouve que ça devient plus sérieux, et ça le devient d'une manière qui est vraiment très bien. Ça perd le côté absurde qui a pu bousiller la fin de saison dernière. J'ai pas du tout aimé la fin de la saison 2. J'ai adoré la saison 2 jusqu'au point où Ryan, c'est ça, c'est Ryan.
Moi, j'ai pas regardé Wilfred depuis qu'on en avait discuté il y a un an.
Eh ben, c'est une grosse erreur, parce que sérieusement, cette saison 3, elle est bien. Regarde 5 épisodes et vas-y, 5 épisodes, ça fait quoi? Ça fait 100 minutes.
Ouais, ça fait 5 épisodes de Mary Tyler Moore et moi, j'ai pas le temps, quoi.
Oh, mais
parce que là, maintenant, il y a Mary Tyler Moore, il y a Rhoda, il y a
tes élèves,
il y a Phyllis, et puis il va y avoir Lou Grant bientôt, parce qu'il y en a eu des spin-offs. Hein.
D'accord, ok, bon. Et si tu revenais un peu, je sais que tu es vieux, je sais que pour toi c'est dur
par contre,
d'admettre que la télévision elle est en couleur maintenant, mais
j'ai avoir beaucoup de mal moi à revenir. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez là dans la télévision américaine récente? Parce que moi je n'attends strictement rien d'aucun pilote, d'aucune nouvelle série.
J'attends un petit peu de The Shield, enfin Agents of Shield, et j'attends un peu de la nouvelle, enfin de la série de Michael J. Fox. J'attends un petit peu de la nouvelle série de... Ouais, non, en fait, non.
Si, si, mais remarque, moi, il n'y a que ces deux-là qui...
Un peu celle de Sarah Michelle Gellar et je ne sais plus son nom.
Parce Robin que Williams
ça fait... Voilà, oui, ça me fait un peu penser à... Comment ça s'appelait, cette série avec une meuf qui bossait dans une agence de pub, je crois, avec son père?
Melrose Place.
Non, ah, une comédie des années 90.
Une fille qui bossait dans
Just
une agence...
Just Shoot Me.
Ah oui, exactement.
Pour moi, c'est Just Shoot Me. Oui, je connais Just Shoot Me. Je sais, et c'est pour ça.
Il y a Wendy Malick dedans.
Voilà, oui, c'était... Enfin, j'aimais beaucoup Just Shoot Me. Et du coup, le pitch, là, pour la peine, il me fait vraiment penser à Just Shoot Me. Et c'est quelque chose... Enfin, s'ils arrivent à en faire quelque chose de bien, moi, je pense que ça a le potentiel d'être bien. Puis j'attends aussi la nouvelle série avec Seth Green, je crois que c'est ça.
C'est quoi Les échos sont pas très très positifs et maintenant ouverte au féminisme, à mon avis, ça va pas te plaire énormément. Okay. C'est la série de Seth MacFarlane.
Ouais, c'est ça. Ok, je savais pas que c'était Seth MacFarlane.
Alors, c'est qui Seth MacFarlane?
Le mec qui a fait Ted.
Créateur de Family Guy.
Ah oui, donc
celui qui a présenté les Oscars. Oui,
et American Dad aussi.
Ouais.
Ce mec, oh mon dieu, j'avais pas fait gaffe à ce détail, et effectivement, non, d'accord, ça va sûrement pas me plaire, parce que Seth MacFarlane, non. Enfin, il y a des épisodes de Family Guy et d'American Dad qui sont marrants, mais Seth MacFarlane, le personnage, c'est pas possible.
Tigrou, il y a quelque chose que tu attends?
Pas grand-chose, mais je ne me suis pas trop renseigné sur les nouvelles séries qui allaient arriver, parce que de toute façon, à chaque fois, je parie sur les mauvaises et je regarde des trucs pourris qui sont annulés au bout d'un épisode ou deux. Non, moi, j'attends le retour de The Good Wife avec un petit peu d'impatience, et puis sinon, j'attends le retour de quelques séries, mais il n'y a pas un pilote particulièrement dont j'attends la diffusion avec impatience. Après, chaque année, on dit qu'il n'y aura rien. Chaque année, il y a toujours quelques séries. J'ai l'impression qu'effectivement, là, cette année, c'était un peu plus le câble Netflix avec Orange is the New Black qui faisait ou les séries pas américaines qui nous ont accrochés. Mais,
moi, ce qui m'a brisé le cœur avec cette saison, c'est que NBC a annulé et perdu énormément des séries qui, pour moi, étaient des séries que je suivais, mais avec passion. Enfin, avec passion.
Quoi?
Happy Endings, bon, c'était peut-être pas NBC.
Ah, c'était ABC, ça.
Voilà. Il y a eu énormément de suppressions, enfin, d'annulations qui vont. Ben, Go On, ça me fait de la peine que ça ait été annulé. Sur T-Rock, je suis triste que ce soit fini, mais c'est clair que qu'il était temps. Mais en même temps, enfin, ça va me manquer. Liz Lemon va clairement me manquer. The Office, pareil, il était temps, il était largement temps. Ils ont eu beaucoup de merde, mais c'est quand même une série qui va me manquer parce que The Office, c'était quelque chose que je suivais, mais depuis tellement longtemps, depuis les origines de l'époque où j'ai commencé à télécharger. Quand j'ai commencé à télécharger,
c'était... À quoi faire?
De
façon légale.
Ah oui, de façon
sur
légale,
iTunes.
Voilà. Sur iTunes, oui.
En payant 2,49€ l'épisode.
Oui, voilà, mais tu sais, je suis suisse, j'ai tout l'or des juifs.
Ah mais oui.
Je peux me permettre de jeter quelques dents en or à Apple, ça me pose pas de problème.
Ce podcast prend une tournure...
délicate.
Mais bon, ça, c'est l'humour suisse, apparemment.
On peut en présenter parce qu'on n'en a pas souffert, ouais. À chaque fois que je fais un de ces podcasts, je dis quelque chose d'absolument atroce. Désolée. Toutes mes confuses.
Et toi alors,
Jérôme? Moi, non, j'attends rien non
t'attends
plus.
T'attends rien.
Si, bah, The Good Wife et d'avoir du temps pour terminer mes vieilles séries. Je crois que j'arriverai jamais à revenir dans le présent.
T'inquiète pas, tu pourras toujours te faire The Twilight Zone.
Mais probablement, mais c'est des choses que j'ai envie de faire.
J'ai commencé à regarder The Twilight Zone, et j'ai commencé il y a une année, mais c'est brillant. Je crois même qu'on en avait parlé dans le dernier podcast où j'étais là.
Et est-ce que tu penses que, juste, donne-nous tes pronostics. Est-ce que Community saison 5... Ça va être oui. bien.
Ah oui. Enfin non, je sais pas.
Et si c'était
attends,
nul à chier.
Je sais pas du tout si ça va être bien.
Tu serais
parce
dans
que...
quel état?
Attends, sincèrement, en une année, Dan Harmon a énormément évolué. Oui,
attends, là, t'es en train de lui trouver des excuses. Alors peut-être ça va être bien.
Laisse-moi.
Peut-être ça va être bien. C'est pas la peine de lui trouver déjà des excuses.
Peut-être que ça va être bien, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, enfin, il y a un truc qui a changé, c'est que avant Dan Harmon. C'était quelqu'un qui allait mal quand même. Là, maintenant, il a trouvé une espèce de stabilité, même une vraie stabilité. Il est relativement heureux. Et du coup, je suis très intéressée par ce que Community peut donner en étant écrit par un Dan Harmon qui est un peu mieux dans sa peau, qui boit moins, qui est plus aussi autodestructeur que ce qu'il était avant. Je suis très intéressée par ce que ça peut donner. Je ne dis absolument pas que ça va être bien. D'ailleurs, je pense que ce qui me plaisait autant dans Community...
Sera c'est que c'était pas bien.
Là.
Enfin, c'est ça
non, c'est que c'était écrit par quelqu'un qui était mal dans sa peau et que ça se ressentait.
Mais il n'écrivait pas tout seul quand même, il y avait tout
ouais,
un
non,
tas
mais
de...
c'était. Pense. Enfin, voilà,
je trouve ça insupportable dans Community, ce culte de la personnalité de Dan Harmon où on est obligé de se demander en début de saison s'il va bien ou pas, s'il a une copine ou pas, si.
C'est pas une question
il est de bonne humeur
c'est
ou pas.
C'est pas une question pour de la personnalité.
Enfin, c'est son boulot d'écrire une série, donc après,
oui,
il ne devrait pas
y a des gens,
savoir le faire.
Il y a des gens qui écrivent. En y mettant plus de... Genre, tu lis un article que moi j'écris sur Perdusa, tu lis un article que j'ai écrit... Enfin, peut-être j'ai pas parce qu'il écrit sur les gens qu'il déteste. Non, mais je sais pas, si tu lis un article que moi j'écris sur Shameless, ça va pas être le même article que GG ou Ju pourrait écrire sur Shameless parce que moi, je suis comme Dan Harmon dans ce sens-là, c'est que je mets énormément de ce que je suis dans ce que je fais, dans ce que j'écris.
Non mais attends, excuse-moi, je pense que toutes les bonnes séries qu'on voit à l'heure actuelle, le showrunner, il y met du sien aussi. Enfin, c'est pas... Moi, ce qui m'agace, c'est ce côté Dan Harmon serait quelqu'un d'exceptionnel dans le monde des séries parce qu'effectivement, il met de lui-même
mais
dans la série.
Mais il y met pas juste du sien. Il y met une facette de ce qu'il est qui est très vulnérable au final. Pour moi, non merci. Pour moi, c'est pas tout le monde qui va être capable... d'être aussi de mettre à ce point-là ses failles au grand jour. Enfin, c'est pour moi c'est un mec qui dans sa série
mais il n'est aucune faille au grand jour.
Si.
C'est ultra prétentieux comme Unity.
Absolument pas.
Il n'y a pas une once d'autocritique.
Mais c'est pas non c'est pas de l'auto c'est pas de l'autocritique. C'est de la c'est peut-être un peu de l'exposition. C'est peut-être un peu de je sais pas de l'exhibition. Pour moi, c'est clairement une série... Enfin, Dan Harmon, c'est clairement quelqu'un d'un peu exhibitionniste. Et ça se ressent énormément dans sa série TV. Quand t'as lu son blog derrière, quand t'as lu tout ce qu'il peut écrire sur Internet, tu ressens... C'est vraiment quelque chose que tu ressens, c'est que dans Community, il y a énormément de névroses qui sont des névroses de Dan Harmon. Et peut-être qu'il y a des... D'accord, c'est pas lui qui écrit tout et tout et tout et tout.
Je sais
mais
pas,
ça reste quelque chose qui, dans beaucoup d'épisodes... Et c'est ça qui me touche, c'est que dans beaucoup d'épisodes, c'est des vraies fêlures
en fait,
humaines.
Je crois que c'est ça qui m'agace dans Community et qui m'a fait aimer moins la série, alors qu'effectivement, il y a des moments où Community, c'était assez génial, c'est que c'est une série sur... Enfin, à t'entendre, on a l'impression que c'est une série sur Dan Harmon et qu'en fait, le but, c'est... Il parle
c'est
de
pas,
ce
non,
dont il
pas,
a envie.
C'est pas une série sur
puis,
Dan Harmon.
Et puis, s'il veut faire un épisode...
C'est pas une série sur Dan Harmon, mais Dan Harmon est une des grilles de lecture de la série. Tu peux totalement apprécier la série en ne sachant absolument rien de Dan Harmon. Je crois que la plupart des gens font ça. Mais quand tu connais un peu Dan Harmon, on va dire, quand il t'a répondu 3 fois sur Twitter et qu'il t'a retweeté et qu'il t'a répondu sur Reddit, Eh ben, quand tu connais, tu lis son blog et que tu écoutes ses podcasts et que, vraiment tu t'intéresses au personnage.
Les podcasts dans lesquels il dit que tous ses anciens collègues ont fait une saison pourrie.
Oui, et désolé, mais cette saison 4, c'était de la merde et sincèrement...
Mais la saison 3 aussi, elle était merdique.
Mais donc, c'est faux. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous perdez votre âme? Pourquoi vous êtes aussi perdusien? Je vous en prie, un peu de sincérité, enfin, un peu... Ayez du cœur, quoi. Elle était pas sans faute, la saison 3, mais elle était loin d'être si horrible que ça. Elle avait des très bons épisodes.
Non, mais alors, déjà, après, on peut en discuter, mais le concept d'une série, c'est quand même qu'on attend une qualité, peut-être pas constante, mais un peu régulière.
Et le mec qui a aimé la saison 3 de Teen Wolf.
Oui, mais je dis pas que la saison 3 de Teen Wolf est géniale.
Il est quand même cohérent, puisqu'il a dit que lui, il n'avait pas vu de changement de qualité entre la 2 et la 3.
Oui, d'accord.
Non, mais moi, je suis désolé, les sitcoms où il y a un épisode sur 3 qui est hyper drôle et deux épisodes sur 3 qui sont sans aucun intérêt, on s'ennuie, on n'est pas attaché au personnage et on les regarde vraiment sans trop savoir ce qu'on fait devant son écran, ça m'agace. Happy Endings avait exactement le même problème. Il y avait des épisodes qui étaient très drôles, mais il y avait vraiment un épisode sur 2, voire 2 sur 3, où c'était... douloureux à regarder.
Je suis pas d'accord sur le fait que Community ce soit ça.
Bah, Community, quand c'était pas drôle, c'était vraiment pas drôle et c'était chiant et prétentieux. Donc,
Eh ben, moi j'aime les choses prétentieuses. Sinon, j'aurais jamais postulé à Peur du ça et je ne serais pas là aujourd'hui.
Et ça me fait marrer effectivement qu'on dise de Dan Harmon que c'est quelqu'un d'ultra vulnérable alors que c'est juste un connard qui trash sur ses collègues dans des
podcasts.
C'est
un connard ultra vulnérable. C'est parce qu'il est ultra vulnérable que
c'est pas une excuse. Enfin.
Mais c'est parce qu'il est ultra vulnérable que c'est un connard. Quand tu t'exposes totalement aux critiques, t'as le droit d'être totalement émetteur de critiques. Enfin, non, t'as pas le droit, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord, il a trashé ses anciens collègues, mais en même temps, ses anciens collègues, ce qu'ils avaient fait, c'était un peu comme s'ils avaient vendu des juifs aux nazis. C'était un peu les Suisses, les Suisses du TV show game. Non, désolé, la saison 4 de Community, il y a eu deux bons épisodes. C'était le 8 qui était écrit par Jack Kukoda, je crois, et le 11 qui était écrit par, par Jim Rash.
Avec les Allemands. Au moins il y avait des choses drôles.
Mais
ça faisait un an et demi j'avais pas ri devant Community.
Mais...
moins, et tu mets Nena et tu fais des blagues
comment
avec.
Comment tu peux dire ça, merde. Non,
mais il y a eu exactement la même situation avec Cougarton qui a changé complètement d'équipe créative et bizarrement les gens regardaient la saison 3 et la saison 4 et c'était drôle et les
parce
gens ont dit c'est drôle et il y a pas eu
Cougar Town, c'est pas une série qui a une vraie personnalité derrière, une vraie personnalité créative derrière elle.
Si, Bill Lawrence, c'est un peu une personnalité créative quand
oui,
même.
Tu mais peux mais ne il n'y a aimer, jamais vraiment mis de lui dans ses séries TV. Scrubs, tu regardes Scrubs, tu regardes Cougar Town.
C'est une très bonne série. Que met Dan Harmon dans Community? Parce que moi, j'arrive pas à sa grille de lecture.
C'est pas Girls.
Mais t'as lu les articles? Sérieusement? Tu regardes Abed? Mais tu regardes Abed, tu regardes.
Alors, Abed, c'est quoi? Abed, c'est un type. Ah, ok, il est un peu incompris parce qu'il vit dans son monde.
Non, mais vous comprenez pas. Je crois qu'il y a des nuances à côté desquelles vous passez, mais complètement. Parce que, sérieusement, moi, il y a des micro-trucs chez Abed qui m'ont bouleversé. Putain, l'épisode où ils font où Abed veut construire son château fort. De Blanket et que machin veut faire un truc de coussin et que Troy veut faire un truc de coussin et où ils sont incapables, où Abed il est incapable de passer outre pour son ami, mais putain c'est tellement significatif pour moi, c'est tellement fort, enfin c'est tellement représentatif de ce que ce genre de personnalité peut être, des personnalités incapables de faire des compromis parce que pour eux il y a une espèce de truc de grand schéma auquel il faut se plier, enfin pour moi, c'est le genre de névrose que j'ai déjà vu, enfin que j'ai déjà vécu, et du coup, voir ça chez un personnage de série TV, c'est des trucs qui me bouleversent. L'épisode de Noël de la saison 1, quand Abed, quand sa mère se barre et qu'il s'imagine, enfin qu'il se réfugie dans son monde de fiction, juste pour pas avoir à vraiment affronter la réalité, mais c'est tellement réaliste, comme, enfin pour moi, Community, c'est la série avec Shameless qui me touche le plus sur le plan personnel, sur le plan du vécu. C'est les deux séries dans lesquelles je me retrouve vraiment, dans lesquelles je suis là, ok, c'est des choses que j'ai vraiment déjà vécues, et pourtant, enfin voilà, c'est des choses dans lesquelles vous voyez rien. Enfin, dans lesquels vous voyez pas la même chose que moi, mm-hmm. mais en même temps, c'est ça pour moi qui fait la qualité. D'abord, c'est peut-être pas une bonne série, c'est peut-être pas une série d'exception pour tout le monde, mais la capacité d'être une série d'exception pour ne serait-ce que quelques personnes qui, en général, n'ont pas l'habitude de se retrouver vraiment, d'être vraiment touchées par des choses et de se retrouver, de retrouver leur comportement dans les séries TV, pour moi, ça me fait du bien d'avoir une série dans lesquelles je retrouve ce genre d'attitude que j'ai pu avoir et que personne ne comprenait à part... Enfin, que personne ne comprenait. Et pour moi, c'est pour ça que je suis heureuse que Dan Harmon revienne, même si le fait... Enfin, et en même temps, moi aussi, je vais mieux. Donc peut-être que ce sera que cette saison m'ira comme un gant. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il y ait une personne à la télévision qui exprime des choses dans lesquelles je suis capable de me retrouver d'une manière aussi personnelle, même si je peux pas vraiment l'expliquer et que ça fasse du sens et que ce soit quelque chose... Enfin, c'est absolument... Ça a rien d'objectif, ce que je dis. C'est purement... On est dans la subjectivité la plus totale. Et en même temps, moi, je trouve ça bien d'avoir des séries dans lesquelles la subjectivité joue à mort et dans lesquelles c'est quelque chose qui intimement te parle. Et je sais qu'il y a... Enfin, pour moi, il y a peu de séries. Enfin, il y a Shameless et il y a Community qui sont capables de me parler vraiment intimement. Et mais pour moi, ça, c'est...
Tu as le droit d'avoir un coup de cœur pour Community. On a tous des coups de cœur pour des séries qui, objectivement... Voilà,
mais c'est pas un coup de cœur pour Community, c'est un coup de cœur pour Dan Harmon.
Oui, mais moi, la seule chose... Ce qui m'agace, c'est pas que tu aies un coup de cœur pour Dan Harmon ou que tu te reconnaisses dans ses personnages. Ce qui m'agace, c'est l'attitude de certaines personnes sur Internet où on a l'impression que Community, c'est la meilleure sitcom jamais faite de tous les temps, alors que, objectivement, ce n'est pas une très bonne sitcom. Après, il y a des côtés que tu peux trouver attachants, intéressants, mais c'est à un moment... une série qui n'est pas capable de faire 3 saisons correctes,
c'est
une bonne sitcom. Friends, ça fait plus de saisons correctes que Community. Et
Friends
c'est
a pas la meilleure saisons. Sitcom.
Oui, mais, non, mais oui. Ces 3 non, premières saisons, et c'est pas devenu n'importe quoi dès la deuxième
c'est
saison.
C'est clair
Friends,
que la série n'est pas, elle est pas égale. Et dans la comédie, moi, il y a les épisodes qui se voulaient drôles. Enfin, moi, c'est clairement pas les épisodes drôles de Community que j'aime le plus. C'est les épisodes qui me parlent. Donc peut-être qu'en ça ouais. C'est pas une bonne sitcom, mais pour moi Community c'est
peut-être qu'il faut
c'est
pas
une
qu'il
bonne
passe
série.
Le sitcom, enfin je sais pas.
Ah mais moi je serais tout à fait intéressée par voir une espèce de dramédie écrite par Dan Harmon ou ce qui serait à propos d'un mec qui est scénariste et dont qui se fait virer de sa série
blanc,
et tout ça.
Un mec blanc de 40 ans.
Il y a The Dick Van Dyke Show hein, qui est une série.
Non mais écrite par Dan Harmon.
Mais...
écrite par Dan Harmon.
Arrête
d'essayer de me refiler tes séries en noir et blanc de l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Je sais, c'est une grosse faute. Je sais, anachronique.
Ouais. Regarde.
Mais c'est prévu, Mary Tyler Moore Show, c'est prévu,
et
je te rassure.
Et Rhoda, c'est encore plus féministe.
Non, mais d'abord, je vais commencer par Mary Tyler Moore Show.
Oh,
parce que...
c'est bien. Comme ça.
Et tu te rends compte que toi, t'es même pas foutu de regarder 5 épisodes de Wilfred.
J'en ai vu 24.
Mais les 5 de cette saison,
ah non,
je te dis.
C'est trop. Et puis en plus, je regarde déjà The Newsroom.
Ah, d'accord, ah. Jolie transition.
Hein. Alors, The Newsroom, qui apparemment n'aura pas de saison 3, puisque officiellement, Aaron Sorkin n'aurait pas le temps. Il n'est pas vraiment motivé. Et c'est les rumeurs qui circulent en ce moment.
Série. Il veut pas que quelqu'un reprenne sa série.
Ah, je sais pas.
Mais non, peut-être... mais t'es sérieux, ça aura pas de saison 3.
J'ai lu des trucs là récemment qui disaient pourquoi HBO a pas encore commandé la saison 3. Il y a des rumeurs qui circulent qui voudraient que Aaron Sorkin soit pas franchement motivé. HBO serait d'accord, mais Aaron Sorkin serait pas.
Oh,
en même temps, au vu de cette saison 2.
Moi, je la trouve très bien cette saison 2, je la trouve mieux que la saison 1. D'accord, c'est pas affirmer grand chose que de dire que la saison 2 est mieux que la saison 1. Mais le fil conducteur, je trouve que la série a du rythme. Le fil conducteur m'intéresse énormément, il me fait penser à The Social Network.
Hein ?
Ah oui, avec cette espèce d'articulation autour du procès. Ça, c'est très similaire à The Social Network dans la construction.
Ah oui !
La construction narrative est très similaire avec The Social Network.
Oui, mais enfin, au final, c'est quand même une catastrophe.
Ah non, je suis pas d'accord.
Ah bon ?
Je suis absolument pas d'accord.
Bah, de toute façon, la saison est quasiment terminée, puisque là, il nous reste plus que... Là, il nous reste 2 épisodes qui vont être 2 épisodes spéciaux sur l'élection américaine où on imagine que les gens de la newsroom savent déjà qui est le président parce qu'ils sont tellement intelligents.
Oh, non.
Ils n'ont pas besoin que les gens votent puisqu'ils savent qui est le président. C'est ça qu'on va nous expliquer. Ils vont nous expliquer aussi pourquoi...
En même temps, c'était Mitt...
Pourquoi Mitt Romney a perdu, c'est parce qu'il n'a pas écouté les gens de la newsroom. Mais...
t'aime taire parce que ce podcast en fait c'est Iris Kavé contre le monde.
Non, non. Rien, mais par contre, moi j'ai été très très déçu parce que. J'ai été un peu déçu parce que le premier épisode de la saison 2 était encourageant. Il faisait quelque chose qu'il n'y avait pas en première saison, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire fictionnelle, c'est-à-dire une affaire.
Propre à la newsroom.
Propre à la newsroom qu'il dévoile. Il révèle à l'antenne en fait qui se révèle être fausse, de la désinformation.
Ouais.
Et malheureusement, cette intrigue n'a pas été de nature à modifier les personnages qui restent aussi imbus d'eux-mêmes, à pas se révèle à.
C'est pas vrai, là, les personnages, à la fin de la saison, ils sont prêts à abandonner leur boulot, ils sont là, oui, on a fait de la merde. Et d'accord, la dirigeante de la chaîne ne veut pas, mais les personnages ont quand même changé. Ils sont là, on a fait des erreurs, et ils admettent qu'ils ont fait une erreur dans la manière dont ils l'ont faite. Les personnages sont là, on a fait une erreur, on a fait de la merde, il faut que des têtes tombent.
Enfin, moi j'ai été tellement déçu par la résolution qui est que ils n'ont pas fait une erreur. C'est-à-dire qu'ils ont été moins irréprochables que d'habitude en faisant confiance à quelqu'un de l'extérieur. Puisque celui qui fait l'erreur, celui qui ne fait pas son travail de journaliste à 100%, c'est pas un gars de la newsroom. Oh, c'est pas vrai.
Ah mon Dieu.
C'est pas le mec de Washington qui
oui, vient. Oui, oui, c'est vrai, mais tu vois ça. Sérieusement, tu sais, j'ai l'impression que tu regardais The Newsroom en voulant ne pas aimer The Newsroom, parce qu'Aaron Sorkin
s'est
tenu un donneur de leçons et tout ça.
Mais c'est... clairement, et c'est comme ça que j'ai tenu. Mais c'est comme ça que j'ai tenu à la première saison, puisque la première saison, je la regardais.
Pour détester Aaron Sorkin.
Non, pour voir à quel point.
Aaron Sorkin était prétentieux.
Non, c'était sur le féminisme, c'était pour voir les personnages féminins.
À quel point Aaron Sorkin écrivait de mauvais personnages féminins.
Exactement. Et puis arrive le premier épisode de la saison 2, et là je suis agréablement surpris. Tu regarderas ce que j'ai écrit sur le forum.
Rappelle.
Je me disais, tiens, ça peut relancer la série sur justement, au lieu de reprendre toujours des faits qui se sont passés et de donner a posteriori. Des leçons aux journalistes de comment ils auraient dû traiter quelque chose dont ils
mais ils donnent aussi une leçon à ses propres journalistes disant vous avez fait une erreur.
Mais moi j'y crois pas du tout. Comment c'est possible que ce que je comprends pas, c'est l'informateur de Jack McAvoy là, du vieux là, de Sam Waterston.
De Will McAvoy.
Ouais, mais dans Law and Order, le personnage c'est Jack.
Tu parles de l'autre.
Jack McCoy, ouais.
Ok.
Le vieux là, celui
qui a. Oui, le vieux, ouais.
Sam Waterston.
Voilà.
Il a un informateur, machin, qui lui confirme cette histoire.
Mais il l'explique juste après. Son fils faisait un stage chez eux et il s'est fait virer et son fils a commencé à prendre de la drogue et est mort d'une overdose. Et d'accord, c'est
oui, donc là, c'est une histoire de conspiration contre la newsroom.
Non, c'est pas une conspiration, c'est juste que. Il s'est probablement fait virer parce que. Enfin, il a fait une erreur, il s'est fait virer et ça se retourne contre eux. Enfin, non, c'est pas une conspiration contre la newsroom, c'est juste le genre de truc qui arrive, quoi. Enfin.
Moi, j'ai été déçu par. Mais c'est pas. J'avais pas de volonté de descendre la série parce que c'est Aaron Sorkin.
Moi, je suis d'accord, j'ai pas trouvé la série parfaite, c'est pour ça que je vais pas la défendre sur tous les points, mais. L'intrigue, je ne l'ai pas trouvée mauvaise, déjà, je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle, mais je ne l'ai pas trouvée mauvaise. Et après, au niveau du rythme, j'ai beaucoup aimé la manière dont les scènes s'enchaînaient et tout ça. J'ai trouvé que sur cette saison 2, le rythme était vraiment bien tenu. C'était intéressant, ça me faisait vraiment entrer dans les épisodes, je ne me faisais absolument pas chier une seconde. Et en plus de ça, sincèrement, les dialogues, les séries écrites par Sorkin, pour moi, c'est comme du crack. Je pourrais en bouffer autant que. Enfin, je pourrais en consommer autant que mon corps le supporterait. Parce que dans son écriture, il y a toujours cette patte Aaron Sorkin qui fait que c'est de la poésie à entendre aussi.
Mais sauf que, alors oui, mais je pense qu'on est passé à autre chose. Enfin, moi j'ai fait une overdose de.
Ouais,
de
mais
Sorkin.
Toi ça fait 10 ans. Enfin, 15 ans que tu regardes Aaron Sorkin.
Non, j'ai juste vu une seule fois The West Wing et encore j'ai eu 4 saisons. C'est tout ce que j'ai vu de Sorkin.
C'était pas toi qui me vendais la saison 6 de The West Wing.
Mais c'est pas Aaron Sorkin la saison 6.
Voilà, oui, justement. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, pardon.
Pardon.
Oui, justement, c'est pour
Est-ce
ça.
Est-ce que j'ai eu un côté condescendant et méprisant à
non,
la
non,
Aaron
pas
Sorkin
du... Non, mais c'est pas ce que tu m'avais. C'est parce que justement tu m'avais vendu la saison 6. Et si, quand t'as dit j'ai vu que 4 saisons de The West Wing, j'ai cru que tu voulais dire 4 saisons dans l'ensemble.
Ah oui, oui, voilà. Écrite par Aaron Sorkin. Voilà, c'était 4 saisons écrites par Aaron Sorkin. Et puis j'ai vu quelques
épisodes de Studio 60 qui devient acheté par terre
oui, au bout de 5 épisodes.
Oui. Non, dès le premier.
Mais ça reste, d'accord, il y a des côtés qu'on peut critiquer. Mais pour moi, du point de vue de l'écriture pure, je regarde The Social Network, mais pendant 2 heures, mes oreilles, elles ont un orgasme parce que c'est merveilleux ce qui se passe.
Oui, mais tout comme, mais je pense que Sorkin aussi, il a besoin d'être guidé. Et comme dans The West Wing, j'imagine qu'il y avait Thomas Schlamm qui était aussi énormément à ce que l'écriture de Sorkin ne s'auto-alimente pas d'elle-même et... de lui faire raconter des personnages. Parce que dans The Newsroom, il y a quand même un problème, c'est quand même, tous ces personnages n'existent pas. Sloane n'existe pas. Et d'un seul coup, on se dit, tiens, ce personnage qui est joué par une bonne actrice, que j'ai pas rendu détestable en première saison parce que j'en ai pas fait une pimbèche incapable de faire autre chose que des erreurs informatiques parce qu'elle est une femme, ce personnage-là, il essaye de lui donner un petit peu de profondeur. Donc, on a un épisode spécial où
elle pleure
parce que ce qui est affreux, c'est que il y a une photo d'elle avec ses seins où elle est toute nue ou c'est quoi qui circule sur internet parce que son petit ami et ça peut pas ce qui m'insupporte et en plus c'est vrai que c'est plutôt pas mal fait, c'est un peu touchant. Ce qui est insupportable, c'est qu'elle peut pas avoir quelque chose de professionnel à faire dans The Newsroom. Là, on est obligé de retomber dans « Tiens, c'est une fille, on va lui coller des problèmes d'histoire d'amour et de relations merdiques. »
C'est pas un problème, parce qu'elle doit quand même le gérer, c'est quand même quelque chose qui attaque sa carrière. Et quoi que tu en dises, c'est le genre de risque qui existe, quoi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir Sloane, qui est quand même une femme qui, professionnellement, on le sait qu'elle est merveilleuse, on le sait qu'elle est incroyable professionnellement, c'est un rock cette femme et ça m'a intéressé qu'on l'attaque un petit peu et qu'elle soit face à un problème, quelque chose qui peut potentiellement détruire sa carrière et qu'elle arrive à le gérer. Moi j'ai trouvé ça m'a sérieusement beaucoup plu.
Ouais c'est vrai, mais en fait t'as raison.
Ouais, tu dis ça juste parce qu'on a plus beaucoup de temps.
Non pas du tout, non mais j'ai juste été déçu par cette fin de saison et par le fait qu'effectivement j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, parce que Sorkin est sûrement quelqu'un de brillant, mais qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour le guider, j'imagine faire ce qu'a fait David Fincher avec lui sur Social Network, qui est vraiment un excellent film, mais tout comme David Fincher n'a pas été capable sur House of Cards de faire un bon truc d'un scénario un peu pourri.
Je suis d'accord avec toi, quelqu'un de plus pourrait aider. Mais pour moi, rien que l'écriture d'Aaron Sorkin, c'est quelque chose qui me plaît tellement que je peux regarder ça sérieusement. Il pourrait me raconter, il pourrait faire lire le dictionnaire. Enfin, non, parce que ce serait pas ses dialogues. Mais je sais pas, il pourrait faire des dialogues sur n'importe quoi. Je les regarderais et ça me passionnerait parce que la manière dont il les écrit, c'est quelque chose que je trouve profondément...
On aurait 14 statistiques sur un fait et puis un type à la fin qui donnerait une conclusion
condescendante. Comme les bouquins de Chuck Palahniuk. Non, mais pour moi, c'est désolé, mais... Non, pas désolé, je suis absolument pas désolé.
Mais je pense qu'au-delà de ça, le problème, c'est... Tu parles de dialogue, effectivement.
Voilà, oui.
Il y a des dialogues, il n'y a pas de personnages. Ces dialogues fonctionnent dans du vide. Ils pourraient être dits par n'importe qui. Puisque ces personnages... Non, on les connaît Maggie, pas, on les Maggie. Aime pas. Maggie, cette espèce Maggie. De pain bêche qui Maggie. Ressemble à l'américaine de base qui fait un safari et qui trouve les petits noirs tellement jolis. Oh, mais c'est terrible, ils ont une vie tellement difficile. Mais pourtant, le petit noir, il m'a touché les cheveux parce que. Bon, alors après, il est tué et tout, alors faut que je m'en remette parce que franchement, c'est compliqué d'être une américaine qui voit un petit noir.
C'est une moyenne que de trouver des noirs jolis.
Mais c'était horripilant.
Moi, je suis pas d'accord. Enfin, j'ai pas trouvé ça horripilant. Mais bon, c'est parce que je suis suisse et raciste, donc tu sais.
Mais il y avait un potentiel qui était rageant avec cette saison-là, c'est qu'il y avait un potentiel. On sent qu'il aurait pu faire quelque chose de
pas mal. Moi, j'ai trouvé que le potentiel s'est réalisé. Tous les épisodes ne sont pas du même niveau, encore une fois.
Les épisodes impairs, allez, 2, 3...
Mais toi, t'as vraiment des problèmes avec tes réalisateurs impairs.
Ça marchait bien, à peu près. Mais alors, les épisodes pairs, c'était pire que la saison. Non, puis alors après, enfin, une fois qu'il a fait 3 épisodes impairs potables, c'est la Bérésina avec le dernier, là, le 7, c'était affreux.
Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode.
Pourquoi Jane Fonda ne les vire pas? Il n'y a aucune raison.
Mais je sais pas, parce qu'elle est cool et qu'elle est là. Non, je veux pas que vous soyez bien.
Il n'y a aucune raison. C'est le contraire de Shonda Rhimes, qui fait des choses pour faire avancer les histoires et ses personnages. Elle se fait écraser un avion, ça lui prend une saison entière à détricoter toutes les conséquences de ce crash d'avion, ça permet de construire les personnages, ça permet... Cette histoire-là, d'accord, n'a aucun impact sur qui que ce soit. À la fin, il y a quelque chose de magique, qui est Jane Fonda qui dit...
Il reste 2 épisodes. Fais confiance à Sorkin. Arrête, au lieu de...
Je n'ai aucune confiance.
Sorkin, c'est comme Dan Harmon, c'est comme David Kelley. À un moment, c'est des mecs, ils font leur série tout seuls dans leur coin. Ils n'arrivent pas à travailler avec des gens.
Ah, donc on est d'accord qu'il y a une différence avec leur série. Hein.
De quoi?
Je sais pas, avant vous me disiez, ouais, c'est pas la série de Dan Harmon, il y a d'autres scénaristes. Là, tu viens de dire que c'est un mec qui fait sa série dans son coin. Vous vous contredisez.
Ils n'arrivent pas à travailler. Enfin, à un moment, les séries de Sorkin, effectivement, tout le monde dit c'est la série de Sorkin. Il écrit la moitié des épisodes. Il met peut-être beaucoup de lui dedans, mais je trouve qu'il tourne un peu à vite parce qu'à un moment, souvent, les bonnes séries, c'est quand même des projets un peu plus collectifs que ça. Et après, oui, tu peux faire confiance à quelqu'un, mais quand il se foire une fois sur deux, y a pas vraiment de raison de faire confiance. Quoi.
Ben, moi, ça m'est égal, j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de faire confiance à Sorkin, j'ai envie de faire confiance à Dan Harmon, j'ai envie de faire confiance aux gens qui m'apportent quelque chose que les autres séries m'apportent pas. Parce que je pense qu'ici, on regarde, enfin, non, pas toi, Tigrou, mais on regarde beaucoup, beaucoup de séries, et parmi ce nombre beaucoup trop élevé de séries, cette quarantaine de séries TV qu'on regarde, il y en a peu qui, pour moi, m'apportent quelque chose qui est différent de ce que les autres séries m'apportent. Et ben, c'est le cas de The Newsroom, c'est le cas de Community, c'est le cas de Shameless. Et c'est ces séries qui ont quelque chose de plus à m'apporter. C'est aussi un peu le cas de Wilfred. C'est des séries où je les regarde pas pour regarder une série irréprochable, mais pour ce que la série a vraiment à m'apporter.
Ouais, c'est un attachement personnel.
Voilà, oui, c'est un attachement personnel, mais en même temps, on est perdu ça, quoi. Si on peut pas avoir un attachement personnel, qu'est-ce qu'on peut avoir?
De la condescendance. Voilà. Et du mépris.
D'accord. Alors moi, je suis le bisounours chez Perdusa. J'aime des séries parce que j'ai un attachement personnel à elles.
De toute façon, c'est forcément que tu es attaché aux séries que tu aimes et que tu développes des attachements personnels. Enfin, je pense qu'on est d'accord aussi là-dessus.
Parce que c'est pas des séries que j'aime comme j'aime les autres séries de qualité. C'est vraiment des séries que j'aime pour des raisons qui sont propres à ces séries.
Qui sont indépendantes de la qualité de la série.
Voilà, oui, c'est ça.
C'est pour ça que Community, même quand c'est nul... Non, mais après, je comprends, moi, il y a des séries...
Non, mais...
Je suis attaché à la série, et au final, effectivement, même quand il y a des défauts, c'est pas grave, parce que
voilà,
ça fait partie du charme de la série. Après, moi, ce qui m'agace, c'est qu'effectivement, les gens comme Aaron Sorkin, on crie au génie en permanence. C'est des gens qui arrivent plus ou moins à faire croire qu'ils font tout seul dans leur série, ce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais au final c'est très inégal et je trouve qu'il n'y a pas forcément un immense respect du public quand on casse sa série au bout d'une saison ou deux, qu'on rate un truc un épisode sur deux et qu'on ne fait pas l'effort de développer les personnages ou les intrigues parce que ça ne nous intéresse pas.
D'accord. Voilà.
Allez, avant de conclure, comme c'est un peu le leitmotiv de ce podcast, c'est-à-dire les choses racistes et ce genre de choses,
ouais,
parlons de la fin de Game of Thrones. Tigrou m'a raconté la fin de Game of Thrones avant le podcast, ça avait l'air très très intéressant ce qui se passe, l'évolution.
Tu regardes pas Game of Thrones?
J'ai arrêté cette année après le season
premier. T'as tellement raison.
J'ai été trop fier de moi.
T'as tellement raison, j'ai tellement envie.
Au bout de 55 minutes, je me suis dit, mais... En fait, ces gens ne m'intéressent pas.
Ah non, mais c'est pareil, j'aime pas Game of Thrones.
J'aimerais bien juste... Enfin, c'est toujours comme... Mais c'est même pas de la haine ou quoi que ce soit. Et contrairement à The Newsroom, où il peut y avoir des défauts tellement criants que ça en devient drôle ou machin, il y a quelque chose. Dans Game of Thrones, juste, moi je passe à côté parce que ça m'intéresse pas et question bataille et ce genre de choses. Ce que j'aurais bien aimé voir, les grosses batailles avec les dragons et tout... Il n'y a pas ça dans Game of Thrones. C'est ça qui est frustrant. Donc, j'ai préféré Spartacus. Écoute, pour regarder ça. Et puis, effectivement,
ça fait 3 saisons que t'attends l'hiver. Donc,
moi, j'ai pas de... J'ai juste abandonné parce que ça m'intéresse.
Ouais, bah écoute, j'abandonnerais volontiers la série si je savais pas que tout le monde me dirait « Ouais, non, mais tu vois, cette saison, elle est très bien. Tu peux pas savoir parce que tu regardes pas. C'est une série que, qu'on est censé regarder parce que c'est une grosse série et je la regarde juste pour ça, mais j'ai aucun intérêt. » Pour la série.
Honnêtement, Game of Thrones, moi je trouve ça distrayant. Hein. Enfin, ça, y a de vraies qualités dans la série. Après, le problème, c'est que c'est pas une série. Ils savent pas gérer les choses. Et moi, je ne comprends pas comment on peut faire dans une série un dernier épisode qui systématiquement de saison est raté. Et là, quand même, ils font quelque chose d'assez énorme. C'est que dans le 9e épisode de la saison, ils tuent la moitié des personnages de la série dans une scène qui est assez choquante et plutôt réussie. Et dans l'épisode suivant, à peine s'ils en parlent en fait. C'est. On parle d'autre chose, on boucle des petites intrigues.
Cette scène. Enfin, le Red Wedding, j'y étais complètement. Enfin, j'étais là, ah ouais, ok. Et
oui, mais à la limite, tu peux ne pas accrocher. Moi, je trouve que pour le coup, cette scène-là, qui était très attendue par les gens qui ont lu les livres, ils l'ont plutôt bien réussi. Après, c'est débattable. Enfin, à un moment, l'intérêt de massacrer tes personnages de la manière la plus choquante possible pour choquer les gens.
Ça a fait son temps maintenant.
Voilà, bon, c'est, disons que c'est un peu la limite du truc. Mais surtout, pour moi, quand on fait ce genre de scène dans un épisode, dans l'épisode suivant, on est censé traiter les choses, donner un petit peu d'émotion, montrer les conséquences. Enfin, je veux dire, dans Sexy Thunder, il y a.
Bon, je veux pas savoir.
Ah, bon, bah, dans Sexy Thunder, il y a un truc comme ça qui se passe, et ben ensuite, on gère les conséquences de ça pendant plusieurs épisodes. C'est pas juste balancer pour choquer et oublier. Et là, comme d'habitude, le dernier épisode était complètement nul, sans intérêt. Et en plus, il se finissait effectivement par une espèce de scène finale ahurissante, tellement elle était raciste, où on voit...
Daenerys, la blonde aux yeux bleus, se faire porter par une foule d'esclaves qu'elle vient de libérer.
Elle vient de libérer des esclaves qui sont tous noirs, évidemment, ou très foncés. Et effectivement, du coup, elle devient leur... Et surtout, c'est une scène... On pourrait croire qu'il y a... Enfin, parce qu'en fait, pour le coup, c'est une scène où, dans le livre, déjà, il n'y a pas cette connotation raciste parce qu'il ne précise pas vraiment la couleur des personnages, des esclaves. Et puis surtout, c'est une scène qui a un petit peu de recul où, effectivement, elle-même, elle voit un peu la limite de « je libère des gens » et ensuite, ils me traitent comme une divinité alors que j'essayais de leur donner de la liberté. Ouais. Là, la scène n'est pas du tout traitée. Il n'y a pas de recul dans la scène. C'est juste... Bon, bah super, la gentille blanche venue de loin vient d'apprendre la civilisation.
Non, et puis je supporte plus Daenerys. Pour moi, c'est l'archétype de l'étudiante en lettres qui fait des bolas.
C'est vraiment... Qui fait quoi ?
Tu sais, qui fait des bolas. Tu sais, une étudiante en lettres, en sarouel, qui se balade pieds nus dans la ville, qui fait des bolas ou du djembé, voilà. Pour moi, c'est la meuf un peu cool qui fume des joints et qui est là, ouais, libérons tout le monde, ce sera trop cool, tout ira mieux. Dans la série, c'est ça, j'ai l'impression.
Ouais, je sais pas. En tout cas, là aussi, c'est une erreur de construction, de finir cette saison sur un plan comme ça. Je trouvais ça...
En plus, ça apportait rien. Pas,
ils ne savent pas gérer leur série sur la durée.
Ça apportait rien à la saison qu'on venait de voir, parce que ça n'avait aucune réflexion derrière ce que ça nous montrait. C'était juste nous montrer Daenerys se faire porter en triomphe. Et,
pour finir sur un truc optimiste, voilà, j'imagine.
Pour finir sur un truc cool. Vraiment, j'ai été encore plus déçue par cette saison que par...
Et puis surtout, là, le problème, c'est que ça m'oblige à parler des bouquins, mais le troisième... ils ont décidé de couper un livre en deux parce que soi-disant il était trop dense pour être adapté. Tu peux écouter, je vais rien raconter de... Mais ils coupent le livre en deux parce que soi-disant il y a trop de choses dans le bouquin pour tenir dans une saison. Sauf que du coup, les 6 premiers épisodes de la saison, il se passe rien. Donc il y a un moment, c'est absurde. Mais bon, même si une série, ça fait partie des séries qui sont très surestimées en ce moment.
Oui.
Ouais, on verra ce que ça va donner aux Emmy, puisque The Good Wife n'a pas été nominé, et puis
Game of Thrones... Shameless a été nominé, je crois, dans deux catégories.
Enfin... Ouais, mais pas dans les meilleures séries.
Non, c'est clair.
Cette année, il n'y a aucun intérêt à regarder les Emmy. C'est Breaking Bad qui va sans doute tout rafler.
Breaking Bad et Michelle Fairley dans Game of Thrones, sans doute, si elle a été nominée.
Qui ?
La mère.
Ok, ouais.
Je pense qu'elle a eu sa scène à Emmy. Elle reviendra pas les saisons prochaines, donc elle va avoir son Emmy maintenant.
Et Modern Family, comme d'habitude.
Ouais. Oui, mais si vous avez lu l'article de Drum sur Modern Family, il donnerait presque envie de reprendre la série.
Ah, mais moi, je continue à la suivre, la série.
Ah ouais.
Ah oui.
Alors, est-ce que c'est une... Enfin,
c'est sans savoir. Il a écrit trois articles pour dire qu'il adorait The Walking Dead.
Tu sais, Modern Family.
Saison 1 et 2, donc je
il n'a pas dit qu'il adorait.
Modern Family, pour moi, tu sais, c'est un peu un plat de pâtes. Un plat de pâtes.
Et ouais, mais voilà. Les plats de pâtes, ça nourrit. Ça peut être vachement bon.
Non, non, mais un plat de pâtes sans sauce, ça rien. Des pâtes bon. Que tu viens d'acheter au supermarché, t'as pris le paquet le moins cher. Et tu fais ça à l'eau, t'as même pas de beurre pour à ajouter dedans. Et tu bouffes tes pâtes comme ça parce que t'es étudiant et que t'as même plus de quoi t'acheter du ketchup. Et c'est ça, Modern Family. C'est une assiette de pâtes sans rien, sans beurre, qui a juste été cuite à l'eau et qui est pas. Enfin, ça a pas de saveur.
Ouais, enfin, tout ça parce qu'il n'y a pas un personnage égocentrique qui vit dans son monde et qui n'arrive pas à parler aux gens. Quoi.
Et qui c'est montre ça, les gros névroses problème. Du créateur voilà. De la série qui hein? Explique comment on devrait interpréter ses épisodes sur son blog et sur Twitter.
Pourquoi?
Voilà, on a réussi.
Vous m'avez cassé, vous m'avez brisé. Vous me faites du mal. Tout ça, c'est parce que je suis Abed. Vous pouvez pas me comprendre.
Tout ça parce que tu es quoi?
Abed. Et toi, t'es Chang. Et toi, t'es.
Ça, c'est.
Toi, t'es Chang et toi, t'es le singe. Anis Boobs.
Ouais.
Voilà.
J'ai cru que t'avais. Ça, c'est drôle aussi comme blague, là. Anis Boobs. Là.
Non, c'est pas drôle.
C'est sympa. Je sais, quoi. C'est
mais j'aime pas Community parce que c'est drôle. La plupart des épisodes.
Ah, bah ça. Ça, effectivement, ça serait difficile.
J'ai pas dit que Community c'était pas drôle. J'ai dit que je l'aimais pas parce que c'était drôle. Je l'aime pour d'autres raisons.
Et donc, c'est sur ces réflexions étonnamment profondes
ah oui.
Que nous allons conclure ce podcast. Nous nous reverrons sans doute dans un an.
Voilà.
Tout à fait.
Ou peut-être la semaine prochaine.
On verra.
D'ici là, eh bien, bonne journée.
Ayez une journée de merde, parce qu'on est sur Peur du Zay, on ne fait rien comme les autres.
Mais pas du tout.
Ben non.
Pas du tout. Ayez une très bonne journée. Passez une très bonne journée. Et une très belle soirée aussi.
Thank you.